Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 25e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec les bars protéinés Quest. Ça se ressemble pas du tout. Les bars Quest vous donnent de l'énergie et Divan Quest vous donne de la culture et du divertissement, mais laisse un arrière-goût amer en bouche. Comme cette joke-là. Bonsoir, je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Denis Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Salut!
Comment ça va les gars?
Ben, tu sais... C'est ça, hein?
Ah, je veux pas cracher, je
parle. Fait chaud.
Tu compares de météo, hein? Ça, c'est intéressant quand quelqu'un t'accoste, il n'y a rien à dire, puis il te parle de météo. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Dan, commence, ben, s'il te plaît.
Oui. Je commence vraiment avec Broforce.
Oh!
Oui, ben oui, j'ai envie d'essayer le jeu dont Jeff a parlé la dernière fois, puis j'ai eu beaucoup trop de fun, hein, j'ai fait le tour.
My God.
vraiment le fun. Si vous aviez pas trouvé la dernière fois que ça avait l'air le fun, là, ben...
Si vous ne trustez pas Jeff, allez-y avec la recommandation de Dan.
Voilà. Sinon, étrangement, j'avais du temps pour jouer, mais j'avais comme moins envie de jouer que je pensais, fait que j'ai moins joué à des jeux que j'aurais pu, hein, étant en vacances. Ça a été des classiques, un peu de WoW, un peu de Hearthstone, un peu d'Overwatch. Un petit hashtag Blizzard Fanboy, ici.
Y'en qu'un peu, hein?
On a fait une petite visite à l'arcade de Two Players Mode où est-ce qu'on s'est tapé une solide soirée de Bomberman, de Super Bomberman. Si vous avez jamais eu la chance de tester Super Bomberman au Super NES, là, le 1 ou le 2, peu importe, là, à 4 joueurs, là,
ben,
trouvez une façon.
Allez faire un tour chez... Two Players Mode. Ben oui, on en parle encore.
Lâchez-leur un shout-out avant d'y aller pour être sûr qu'ils amènent le multitap. Là, pis...
ça vaut le déplacement.
C'est malade.
Le gant. Le gant. Ouais.
Quand on commence à comprendre comment on peut faire pour pitcher des bombes d'un bout à l'autre de la map, là, c'est...
Ça ressemble un petit peu facile et planifié, puis soudainement, ça devient complètement chaotique. Mais... Et la plupart du temps, tu te suicides.
pas d'un bout à l'autre. En dehors, par en bas, pour que tu sois en haut.
C'est le concept Pac-Man. Là,
de se faire manger de tout bas, de tout côté.
Oui. sinon, pas grand chose d'autre, là, sauf ce dont je vous parle tantôt. Hein, des gros teasers de même. Mais avant.
Ça doit être écrit anyway, dans la description de l'épisode.
Clairement. J'oublie tout le temps ce bout-là. Hein.
C'est pas là quand on enregistre.
Mais non, c'est ça, je suis mêlé. Avant de finir, par exemple, j'ai une petite. Pourquoi, oh, Matt?
Qu'est-ce que j'ai fait?
Ben, je te donne une petite mission pour le son d'aigle le plus ridicule de l'histoire du podcasting.
Un hymne américain en trame de fond avec un cri d'aigle au loin.
Oui!
C'est encore moins viril que JD qui fait son...
Ça devait être mon inspiration. J'ai tellement écouté Scrubs. Mais en fait, c'était un son d'aigle 8 bits.
Ah! OK.
Criez-vous?
Non.
OK. Bon, j'aurais essayé.
Toi, Matt?
Mais moi, Matt, ben, j'ai fait des sons d'aigle pas mal une bonne partie de la semaine.
T'es pratiqué?
En espérant me rattraper. Fait que... non, j'ai rien d'autre. j'ai joué, en fait, à un jeu que j'avais acheté il y a longtemps sur Xbox One puis que j'avais pas joué du tout. Valiant Hearts. Le petit jeu développé par Ubisoft avec le Ubi Art Framework. Mm-hmm. Donc, un petit jeu narratif, aventure, super beau, très, très intéressant. Le jeu a été assez discuté, là. Je pense pas que j'apprends rien à personne en nommant ce jeu-là, là. Mais très très beau petit jeu, très intéressant, traité de la Première Guerre mondiale, d'un angle historique, en traçant une narrative alentour, super plaisant. Et j'ai découvert un merveilleux site internet qui s'appelle The GOP Arcade. GOP, évidemment, en parlant des républicains aux États-Unis. C'est comme un gros zéro. C'est ça. Et c'est plein de petits jeux style rétro, arcade, très très simple, qui fonctionnent bien sur mobile et sur PC, donc plein de façons de s'amuser.
Fait que même mobile aussi, ça fonctionne bien?
Oui,
c'est très très bien. J'arrête comme cliquer sur le lien.
Donc. Ah oui, ils sont vraiment tous bien optimisés pour le mobile. Puis c'est plein de jeux qui font des satires de certaines positions que les républicains aux États-Unis prennent, mais c'est pas subtil. Des fois, c'est un peu plus subtil, mais en général, c'est pas très très subtil sur ces messages. Quelques exemples. Il y a le jeu Thoughts and Prayer, où on tente d'arrêter les tueries aux États-Unis en offrant nos prières et nos pensées aux victimes. Donc, quand il y a une tuerie qui apparaît à l'écran, on paye sur le piton T ou le piton P pour penser ou prier, en espérant que ça règle de quoi. Puis quand on finit notre run, il nous montre la quantité de Thoughts et de Prayer, et à droite, on a la quantité de vie sauvée, et c'est zéro. Puis après quelques secondes que le jeu commence, on a un bouton qui apparaît qui est interdire les armes à feu aux États-Unis. Puis si tu cliques dessus, ils font juste, ça écrit juste That's un-American.
Ah, c'est clair.
Voilà. En fait, il alterne. Il y a comme deux ou trois phrases.
Ah, oh, je l'ai juste
dit. Un-American, il dit That's unconstitutional. Ouais, voilà. Des choses comme ça. Là.
Fait que vous voyez, tu sais, la satire est dans ta face.
Ah, c'est
là.
Beau, là.
Il y avait aussi, j'ai bien aimé Science Fighter. C'est une espèce de platformer où est-ce qu'on doit éliminer des scientifiques. On joue en fait un lobbyiste. Ou un sénateur, je me rappelle plus, peu importe.
Okay. Ça sort. La différence, c'est
voilà. Cool, hein. C'est très, très mince. On doit éliminer des scientifiques, puis on récolte des donations qui sont des sacs d'argent avec des flags de compagnies majeures aux États-Unis. Fait que c'est ça. Puis il faut éviter les scientifiques nous pitchent des études. Il faut les éviter parce que, tu sais, comprendre quelque chose, ça serait mal.
C'est très dangereux.
Puis il y a des boss, genre Charles Darwin, qui arrive. Puis là, genre, faut fuck up l'évolution. Puis bref, ainsi de suite. C'est hilarant. Et il y a aussi Bomb the Right Place qui m'a beaucoup fait rire. Parce que on se fait informer qu'il y a des villes dans un pays du Moyen-Orient qui menacent notre freedom. Et on doit bombarder la ville. À partir d'une carte qui ne détaille pas les noms, mais qu'il faut qu'on pointe et où la ville qui a été nommée sa carte. Fait qu'évidemment, on se fout du fait que les Américains n'ont aucune idée c'est quoi ces méchants gros pays-là qui menacent la liberté. Puis là, il faut qu'on clique. Puis là, il va nous dire à combien de kilomètres qu'on était de la ville qu'on avait bombardée. Mais même si on est loin, c'est écrit « Bah, vous avez été à 1000 kilomètres. » Mais ils ont probablement eu le message quand même. Fait que ça a été ma révélation entre les deux pods.
C'est comme on disait la semaine passée, là, c'est que... Bienvenue à Cambodia, puis ça va être bientôt connu sous le nom de Cambro.
Cambodia, c'est ça.
Bring them some freedom.
Freedom.
Puis toi et Jeff, entre les deux pods.
Entre les deux pods?
Entre deux pods, tu pourrais te rouiller le cul, je sais pas.
On va faire une chanson avec ça. Ouais, une parodie. Ben, depuis que j'habite à Repentigny, pour aller travailler à Montréal, je prends le train, en fait, le train de banlieue. Quand même agréable, c'est une expérience le fun. On en a assez parlé.
Tu review le train de banlieue.
C'est son sujet tantôt.
C'est son sujet tantôt. Non, mais.
Non, restez, c'est pas vrai.
Ça me laisse environ 45 minutes, une heure là, où je suis assis dans le train et j'attends. Fait que j'ai la chance de jouer à des jeux, d'écrire des choses comme ça. J'écris le podcast d'ailleurs dans le train cette semaine.
Bon, pour une fois, il va être écrit.
Oh! C'est pas vrai. Toujours pas. Donc, cette semaine, j'ai eu le temps de lire beaucoup et de jouer à des jeux dans le train, effectivement. Là, tu as fait un son qui était de circonstance, Dan, avec le drop. Merci. Parce que j'ai eu une nouvelle cette semaine que j'ai trouvée super intéressante. DC Comics a annoncé qu'en octobre, ils vont sortir une série comique de 6 bandes dessinées qui va être un crossover entre Thundercats et He-Man.
Ah, 6, ça c'est cool.
Ça. Donc, ça va être 6 BD qui, pour la première fois, les deux séries vont se rencontrer. Et ils vont partager. Donc, c'est de The Power Sword qui va rencontrer The Sword of Omen, si je me rappelle.
Je vais me fier sur toi.
Ouais. Quelque chose comme ça.
On peut en avoir des punitions.
Bon. C'est correct.
Ça fait du temps.
Donc, pour les fans de ces téléséries-là des années 80, ben, en octobre, on a une série BD de 6 numéros. Exactement. Sinon, j'ai aussi le temps de jouer à un petit jeu qui s'appelle Crypt of the Necrodancer.
Ce que vous voyez pas, c'est pendant qu'il dit ça, il dansait sur sa chaise. C'est un petit peu bizarre.
Crypt of the... Ça se dit vraiment mal. Crypt of the Necrodancer. Voilà. On mettra du reverb là-dessus en quoi, ça serait malade.
Non.
qui est un jeu d'exploration, un dungeon crawler, roguelike, donc généré procéduralement,
oui.
Où tout le jeu, pour être efficace, on doit faire nos actions et nos attaques sur le beat de la musique. Puis dès qu'on quitte le beat de la musique, on est moins fort, on a des pénalités, puis on perd nos bonus. Tous les ennemis se déplacent dans des patterns qui fit avec le beat. Les squelettes qui dansent des bras dans les airs, les petits glues qui se font dans des dandines de gauche à droite. C'est génial. C'est vraiment, vraiment cool. La musique est écœurante. Si vous voulez un petit jeu qui est disponible finalement sur toutes les plateformes, là, le jeu est disponible sur PlayStation, sur iOS, sur Linux, sur Windows, sur OS X, sur Mac dans le fond.
Et sur les frigos LG avec ouais. Le touchscreen, je pense.
Pendant que tu prends un verre d'eau, tu
sais. Tu te fasses ta vie.
La machine à glaçon a descendu sur le temps.
Mais non, mais il est malheureusement, non, il n'est pas disponible sur les frigos LG. Il faut préciser.
Calais, je ne vais pas faire des punitions pour la prochaine épisode.
Mais si vous jouez sur Windows, c'est possible de jouer au jeu avec un dance pad qui doit être probablement super intéressant.
sérieusement, je le recommande. Si vous cherchez un jeu à jouer dans le train ou dans le métro, ou dans le métro comme dans, à Saint-Félix.
Dans le métro en campagne.
Le métro en campagne. Crypt of the Necrodancer. On peut peut-être faire un lien vers une vidéo de ça là, sur Facebook. Ça vaut la peine. Puis donc, cette semaine, c'était le retour à la télévision d'une télésérie que j'ai écouté l'année passée puis qui a été renouvelée, qui est un genre de partenariat entre Space et Sci-Fi Channel, qui est Killjoys.
Donc, clairement, beaucoup de piou-piou.
Beaucoup de piou-piou. Beaucoup
piou-piou. Piou-piou. Au moins quatre.
S'il y a des fans qui nous écoutent de Firefly, c'est probablement la télésérie qui se rapproche le plus un petit peu de ce vibe-là.
Je trouve ça drôle parce que quand je t'allais présenter, je t'ai dit, c'est un petit peu comme le mood de Firefly. Là, tu l'as écouté, t'as fait, ouais, pas sûr, ouais. Pas de ta fête. Puis là, après ça, t'es revenu, t'es comme, non, ok, ok.
Oui, faut y donner un ou deux épisodes. C'est une télésérie qui prend pas les téléspectateurs par la main. Il y a aucune explication. T'es droppé dans une histoire qui commence à l'épisode 1, à la première minute, go. Fait qu'il n'y a pas d'introduction des personnages, il t'explique pas le monde, puis tu l'apprends sur le tas. Fait que c'est un petit peu dur. Quand j'ai écouté le premier épisode, je comprends rien, c'est quoi ce show-là. On lui donne 2-3 épisodes, on embarque, puis c'est vraiment cool.
C'est comme du VanQuest, les 2-3 premiers épisodes là,
sont disparus.
Les 20-30 premiers épisodes, on y arrive.
On y arrive, ça va devenir meilleur. Mais pas de promesses.
Cette semaine, dans l'actualité, Pokémon Go.
Hein?
Voilà, c'est tout. C'était l'actualité pour cette semaine.
Ouais, je n'ai pas entendu parler.
OK. Bon, Pokémon Go ne s'est pas contenté d'envahir les téléphones Android et iOS de façon quasi illégale. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Et d'envahir le fil d'actualité Facebook de tout le monde qui en a rien à chier de Pokémon Go. Voilà. Mais il a aussi envahi Spotify, le service de streaming musical. Dans la deuxième semaine du mois de juillet, donc la semaine pendant laquelle les gens tannés d'entendre parler de Pokémon Go se sont empressés de partager sur les réseaux sociaux à quel point ils sont tannés d'entendre parler de Pokémon Go pour s'assurer que les autres, aussi tannés qu'eux, voient encore plus de posts qui parlent de Pokémon Go. Comprenez-vous que c'est pas utile, votre asti d'affaires? Merci. Fait que j'étais... Ouais, OK. Deuxième semaine de juillet, Spotify a rapporté que la demande pour la musique de la série Pokémon a triplé sur son service.
Ah, c'est comme... J'aurais pensé que c'était plus.
Eh bien... Ben voilà, c'est vrai que le monde en écoutait déjà beaucoup. C'est l'augmentation la plus marquée dans les chansons de Pokémon est pour le classique Pokémon Team. Cette œuvre magistrale relatant le désir d'un adolescent de toutes les attraper pour être le meilleur comme personne auparavant, probablement dû à un manque d'attention engendré par un père absent et son éducation par une mère monoparentale l'isolant des dangers du monde. Ce véritable classique postmoderne se voit suivi de près par le Poké-Rap, dans lequel un slammer nous livre d'un rythme rapide et assuré la liste de Noël d'un pré-adolescent en 1998. Suivi ensuite des pièces Pokémon Johto, Go Pokémon Go et de I Want to Be a Hero. Je connais pas les trois dernières suffisamment pour vous les décrire, mais j'espère que Go Pokémon Go est un hommage à Vanilla Ice.
J'y allais. Merci.
Alors, nous partagerons la liste de lecture Spotify pour que vous aussi, vous puissiez accompagner de façon beaucoup trop épique vos longues promenades dans des lieux publics en épiant les gens qui ont un cellulaire à la main pour essayer de deviner s'ils sont eux aussi en train de jouer à Pokémon Go. C'était ma narration à la William Shatner.
Mais c'est vrai que cette semaine, tout le monde qui a un téléphone est comme... voilà, par-dessus son épaule.
Je pense que c'est un de mes lignes préférées. Genre, je suis pas sûr s'il joue à Pokémon Go ou il est juste son sel.
Alors, en juin dernier, le jeune Britannique Ben Eckersley a eu une surprise en ouvrant l'ordinateur de sa grand-mère de 86 ans. Pensez-y même pas. OK? Bon. Plus précisément, en voyant sa dernière recherche Google encore ouverte. Je vous traduis le texte de la recherche. S'il vous plaît, traduisez les nombres romains MCMXCVIII. Merci. En bon...
C'est la recherche Google la plus polie au monde.
Ben, c'est effectivement britannique. Hein? En bon petit-fils moderne qu'il est, Ben s'est empressé de partager une capture de l'écran sur les interpropios web. Et il n'en fallut pas longtemps pour que le tout devienne viral au point d'en solliciter une réponse du compte Twitter de Google UK, qui va sommairement comme suit. « Chère grand-maman de Ben, j'espère que vous allez bien. Dans un monde de milliards de recherches, la vôtre nous a fait sourire. » Oh, et c'est 1998. Merci à vous. Et également une réponse du compte global de Google qui a dit simplement « Chère grand-maman, pas besoin de nous remercier, sincèrement Google. » Le US Fish and Wildlife Service, agence de préservation de la... Préservation, oui, de la vie sauvage américaine.
Comme la semaine du son de Wildcat.
Ouais, c'est
on abuse,
il va être sollicité. Cette agence-là, hein, bon, liste les furets à pied noir comme une espèce en danger depuis 1968 et ces furets demeurent très rares à ce jour, avec seulement autour de 300 en vie aux États-Unis. Une des grandes menaces à laquelle ils font face est la peste sylvide, une infection transmise par les poux. On se créerait à découverte. Un vaccin oral contre la peste sylvide existe.
Charles Tissard est meilleur que toi.
Un vaccin oral contre... Okay. Chris, on ne suit plus. Okay. Furet à pied noir, menacé, il en reste comme 300, menacé par la peste sylvide. Il y a un vaccin qui existe, coûte pas cher, mais c'est compliqué à distribuer. OK, good, bon résumé. All right. Alors, la US Fish and Wildlife Service ont un plan. Injecter le vaccin dans des MEM, charger le tout dans un dispositif qui tire dans trois directions, attacher le dispositif sur un drone et tirer des MEM vaccinés dans la face des furets. Bon, okay, peut-être pas leur tirer d'en face, mais tout le reste, c'est exact.
J'aime ça.
Si vous vous dites pas là, présentement qu'on vit dans le futur, là, il serait temps. Okay? On va vacciner des furets avec des robots volants qui tirent des bonbons médicaments. Okay? Fait que le site santé-nutrition.org présentait la même nouvelle, mais avec le titre « Les États-Unis planifient de créer une race de furets autistes ». Ouais, ben bon, oui, on vit peut-être pas tout dans le futur.
Non, finalement. Non, c'est pas tout le monde.
Le Journal de Montréal. Créchubin.
Contient de l'écrapaud.
Ah, il est de retour.
Ouais, ben, je prends 30 secondes. Juste pour dire que si je fais pas le segment cette semaine, c'est pas de peur d'être poursuivi par le Journal de Montréal. On est bien trop petit pour ça, là. Ils s'en foutent un petit peu. Pour ceux qui me suivent pas, on a appris cette semaine que le Journal de Montréal poursuivait le site satirique Le Journal de Montréal pour violation de marque de commerce et contrefaçon, grosso modo. Ils disent que la mise en page et les rubriques ajoutent à la possible confusion pour les lecteurs. Calvaire.
C'est ça, joke.
Si t'imprimais pas un torchon qui pousse tes lecteurs à ne pas travailler leur esprit critique, viens pas te surprendre après ça par la suite quand les gens font pas la différence entre une vraie nouvelle puis une nouvelle qui dit que une fille poursuit Hydro-Québec après être tombée enceinte de son compteur intelligent.
Je savais que c'était dangereux, cette affaire-là.
Vous comprendrez ici hein, que c'est
voilà. Oh, mais j'ai lu sur santé-nutrition.org que c'était dangereux.
Je trouve que la situation elle est très, très ridicule et je voulais la souligner, mais c'est tout pour mon segment.
Ben, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine passée, j'avais parlé un petit peu en début d'épisode, dans ce qu'on avait fait durant la semaine, que j'avais tenté de retrouver le feeling du jeu FTL en jouant à Pixel Starship. Puis j'étais resté un petit peu sur ma fin. C'était super intéressant, Pixel Starship, mais ce n'était pas FTL. Mais cette semaine, je suis tombé sur le jackpot. Cette semaine, j'ai eu le plaisir, de jouer un jeu qui s'appelle Duskers. Donc, c'est D-U-S-K-E-R-S, Duskers.
Oui, tu le prononces comme il faut.
Après Charles Tissard, Bernard Pivot.
On va faire la dictée. Donc, Duskers, c'est un jeu indépendant. C'est un jeu de stratégie indépendant qui est sorti cette année, qui a été développé par Misfits Attic, qui ont aussi développé un jeu qui s'appelait en 2012 A Virus Named Tom. Sorti le 18 mai, ça fait déjà deux mois là, que ce jeu-là est sorti. Disponible sur Linux, OS X et Windows. Qu'est-ce que c'est, Duskers? C'est un jeu où on doit survivre dans l'espace en contrôlant des drones qu'on va envoyer dans des vaisseaux parce qu'il est arrivé quelque chose et l'univers est devenu un cimetière. Donc, tout le monde est mort, on est le seul survivant. Puis on doit ramasser de la scrap pour essayer de survivre à travers cet univers-là.
Donc, bien jovial comme
jeu. Ben ouais, que dit le moral.
Ça a un gros vibe Alien, puis tous ces films, les films originaux là, d'Alien, ont le goût. C'est très très minimaliste avec les musiques d'ambiance, avec les effets. Puis ce qui rend le jeu génial, c'est que c'est un jeu qui joue pas avec une souris, c'est pas un jeu qui joue avec un joystick, c'est un jeu qui joue avec le clavier seulement. Parce que la seule façon de déplacer nos drones, c'est de lui donner des commandes avec une interface à la DOS. Finalement. Donc, on doit entrer nos commandes. Et bon, on peut dans... Il y a deux vues qui s'alternent. Il y a une vue interface avec des schematics.
Les plans.
Les plans. Mm-hmm. Avec les plans des vaisseaux qu'on... Sérieux? qu'on board. Qu'est-ce qui se passe avec mon français aujourd'hui? Ça va bien?
Alors, donc, qu'on
aborde, finalement. Je pense que c'est ça le
on
terme.
On va aller avec aborder.
Ouais, je parle pas beaucoup en termes de bateau dans la vie, c'est pour ça.
Ou de douchebag dans un bar. Là.
Mais mettons, pour que tu reprennes ton français, le jeu, c'est-tu marqué dessus que c'est mieux de jouer avec un clavier mécanique? pour le fil de DOS.
Ah, ça serait génial. Sérieux, j'y pensais justement. J'ai dit, mais ça, si mon clavier ferait un bruit années 80, ça serait encore mieux. Mais non, c'est ça. On a deux vues. On a une vue avec les plans où on écrit les commandes directement. Puis on a une vue radar où on voit comme sur un radar. Donc vraiment basse résolution. On voit pas grand chose. On voit pas très loin. Mais on peut déplacer les drones manuellement avec les flèches comme si c'était téléguidé finalement. C'est aussi un jeu généré procéduralement. Donc, à chaque fois qu'on va jouer au jeu, ça va être différent. Chacune de nos vies va être différente. C'est un jeu qui est clairement un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur où on fera pas le saut, on va pas, y a pas de surprise dans ce jeu-là. Mais les ambiances, le focus du jeu, la tension est palpable. C'est génial.
Je pense tout le temps que je vais mourir. Je capote.
T'en parles, puis j'ai déjà peur. T'sais.
Mais c'est le feeling.
Tu devrais peut-être pas jouer.
Non, c'est ça que je me dis.
C'est le feeling que les développeurs ont voulu donner au jeu. Le feeling de quand on est tout seul dans le noir, qu'on est isolé, qu'on est entouré de vieilles technologies qu'on comprend pas vraiment, qu'on peut pas vraiment voir parce qu'il fait trop noir, puis où notre seul outil pour survivre à travers tout ça, c'est un détecteur de mouvement. Donc, ce qui nous ramène à travers les aliens et tout ça. Donc, on va appeler ça un jeu tactique de survie, d'horreur procédurale.
Good enough.
Il y a énormément de commandes qu'on peut entrer dans le jeu et ça donne une complexité super le fun. On peut rencontrer jusqu'à 4 drones qu'on va déployer dans les vaisseaux qu'on va voir autour de nous. Puis chacun de ces drones-là, on peut les équiper jusqu'à 4 modules, si on veut. Puis les modules, c'est les commandes. Finalement. Enfin, si je mets un module qu'on appelle motion, donc détecteur de mouvement, mais si je rentre la commande motion, cette drone-là va pouvoir détecter les mouvements aux alentours puis déterminer si, ben, est-ce qu'il y a une infestation dans le vaisseau. Parce que oui, on n'est pas seul dans l'univers, malgré que ce soit un cimetière. Ça semble que tout le monde a survécu, sauf les êtres humains. Donc, il y a des extraterrestres tout... ou des robots.
On va prendre une pause.
Donc, il y a quelque chose qu'on va appeler une infestation. Parce que j'ai jamais confirmé de visuel, finalement, ce que c'était. Ça m'a tué à plusieurs reprises. Ça a détruit tous mes drones. Mais je sais pas c'est quoi. C'est un bip rouge sur mon radar qui va très, 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 très vite. Puis quelques secondes après, j'ai plus de drones. Puis on doit recommencer. Donc, je sais pas c'est quoi. Mais on peut donner des commandes comme motion pour détecter les mouvements. Il y a interface pour se connecter avec les ordinateurs. On peut tow. Donc, pour
remorquer.
Les autres drones. Parce qu'on va trouver d'autres drones différents qui vont avoir des modules installés.
Un drone, ouais. OK, c'est bon, continue. t'as alterné un petit peu depuis tantôt. Fait que...
Mais c'est pour ça, je ne sais pas, j'alterne. Je prends pas de chance.
Une punition sur deux.
Je vais les assumer. Donc, c'est ça, on peut les remorquer jusqu'à notre vaisseau pour augmenter notre arsenal, finalement. Quand on n'est pas en exploration des vaisseaux étrangers, finalement, on a une vue des différents systèmes de notre vaisseau, de nos drones, puis on a une carte qui présente aussi le système où on se trouve, qu'on peut se déplacer à travers les différentes galaxies, puis explorer. Le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Quand on meurt, ça dit depuis combien de journées on a survécu. Semblerait qu'il y a une histoire, puis qu'il y a un dénouement, puis qu'on peut comprendre la vérité. J'ai survécu 20 jours dans tout ça, donc j'ai peut-être exploré une quinzaine de vaisseaux différents à travers tout ça. On trouve des vaisseaux qui ont des logs non corrompus, fait qu'on peut essayer de retrouver l'histoire à travers différents types de vaisseaux, puis qu'est-ce que les personnes ont remarqué ou nous racontent de ce qui leur est arrivé. J'ai pas survécu assez longtemps, puis les fois subséquentes où j'ai essayé de jouer, je me suis même pas rendu jusqu'à 20 jours. Donc mon record, ça a été 20 jours. Mm-hmm. C'est assez difficile, c'est pas un jeu qui est facile d'accès. Puis dans le fond, notre but principal, avant de savoir l'histoire, ça va être de trouver des ressources. Parce qu'on a besoin de morceaux de scrap pour réparer nos drones, pour réparer notre vaisseau, pour s'améliorer, parce qu'on peut pas aller n'importe où. Et on a une quantité de gaz, finalement, limitée. Donc, on peut pas jumper autant de fois qu'on veut à travers les différents systèmes. On va sauter d'un système à l'autre, maximum 6 fois. Ça veut dire que si, par exemple, tu prends une mauvaise décision dans un vaisseau, puis tu décides que pour clairer l'infestation qu'il y a dans l'autre vaisseau, ben, on va ouvrir les sas du vaisseau. Donc, on peut donner une commande au vaisseau, puis dire, rouvre toutes les portes d'accès qui donnent vers l'espace, puis ben, on vente l'oxygène en dehors du vaisseau. C'est pas grave, j'ai des drones, mais on va laisser rentrer les radiations, par exemple. Ça tue la chose qui est là, puis qui infeste le vaisseau. Mais souvent, ça va détruire la technologie, ça va détruire les composantes qu'on peut voir ramasser. Puis tout ce qui n'est pas assez gros pour rester au sol va être aspiré avec l'oxygène, puis va quitter le vaisseau. Donc souvent, tu fais le choix entre est-ce que est-ce que je trouve une façon de l'attirer ailleurs ou d'envoyer sacrifier un drone pour attirer l'infestation pour pouvoir aller chercher les choses, ou si je sacrifie ce loot-là pour me débarrasser de ça, puis je vais aller chercher plutôt l'upgrade dans l'autre coin. Donc, il y a tout le temps des décisions à prendre.
Avec de l'information extrêmement limitée.
Extrêmement limitée, puis il y a plein de choses, il y a très peu d'explications, puis il y a plein de choses qui arrivent puis qui font en sorte que tu te mets à paniquer puis tu comprends les choses sur le coup. Il y a des vents dans les vaisseaux, puis ça, c'est pour moi ce qui m'a marqué le plus. Là, il y avait des grilles de ventilation, je les voyais quand j'utilisais la commande scan. Ça me dit, il y a des vents. Mais je suis comme, il y a des vents, mais je peux rien faire, je peux pas les interfacer, je peux pas les ouvrir, je peux rien faire avec. Puis dans le vaisseau où j'étais, je suis quand même assez avancé, il y avait beaucoup d'infestations. Fait que j'ai réussi à éclairer un chemin complet où je m'étais mis dans un coin, puis je pouvais ouvrir un sas, puis venter toutes les infestations dans l'espace. Ça m'a pris comme une demi-heure de positionnement. Puis tu sais, tu peux ouvrir une porte, puis la tirer dans une autre pièce, puis l'enfermer là. Fait que j'avais réussi à toutes les mettre dans un beau chemin. Je me suis dit, ouvrir les portes, puis je vais les lancer dehors. J'ai compris c'est quoi les vents. Ils vont pas dans les vents, mais c'est que quand les radiations vont infecter le vaisseau, ils passent par les vents, puis ils vont infecter les autres pièces où il y a des vents. Même si tu perds pas ton oxygène, tu vas être irradié quand même. Puis là, les radiations, ce que ça fait, c'est que ça endommage tes drones. Puis tes drones endommagés ont un pourcentage de chance de faire défaut. Quel plaisir! Donc, la seule drone qui te reste, quand son système de caméra fait défaut, tu peux tout faire, mais tu vois plus.
Je te reprends maintenant. Là. Je te coupe maintenant. La rousse dit non masculin.
Donc, un drone.
Oui,
drone.
Fais une mission de suite, on va sauver du temps.
Merci. Voilà. Donc, non, c'est ça. C'est plein de choses qu'on va découvrir comme ça, que tes drones peuvent perdre le système de caméra, peuvent perdre le système de déplacement. Elle peut décider qu'elle tourne juste à gauche, puis plus à droite. Fait que là, tu peux plus aller dans certaines pièces. Il. Ça, quand même, tu vas me prendre du temps depuis le temps que je dis elle. Donc, il y a...
Ça nous regarde pas, ça.
Donc, il y a énormément de pièges, tout ça, puis c'est un jeu où l'action n'est pas directe. Il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de démons qui vont nous attaquer, il n'y a pas d'extraterrestres là, dégoûtants qui vont nous sauter dessus. C'est très, très passif, parce qu'on n'est jamais nous-mêmes attaqués ou en danger. On est dans un vaisseau en sécurité, puis on envoie des robots faire le travail pour nous. C'est génial, pour vrai. le feeling d'être dans ce jeu-là, c'est génial. On apprend sur le tas... On finit par se rendre compte que la radiation, c'est mal, vous voyez.
On est sur le tas, on meurt sur le tas.
On meurt sur le tas. Le stress est au rendez-vous. C'est ça, c'est
ça. Ça, c'est le tas.
Il faut faire des choix difficiles. Est-ce qu'on abandonne un drone? Est-ce qu'on sauve les autres? Est-ce que je m'en vais? Puis je sais qu'il me reste un saut. Puis j'espère que le prochain vaisseau où je vais aller va être mon sauveur. Puis où? Probablement pas, là. Probablement pas.
Ou pas, mais c'était pas varié.
C'est ça. Donc, puis tu sais, ma fin de ma plus grande épopée de 20 jours, finalement, dans le jeu, c'est passé quand mon seul drone qui avait un détecteur de mouvement s'est fait détruire. Donc, j'avais plus de détecteur de mouvement, puis j'ai dû quitter le vaisseau sans pouvoir remorquer cette drone-là et la ramener avec moi. Et donc, j'ai exploré les trois vaisseaux suivants à tâtons, sans voir où je m'en allais. Donc, il y avait une porte, je la rouvrais et j'entrais. Et j'ai tâtonné un monstre d'un petit peu trop près. Donc, c'est un jeu qui est super intéressant. C'est difficile de se contenter là, de le jouer juste une fois ou de l'explorer une seule fois. On en veut encore. C'est une mécanique qui est littéralement différente de tout ce que j'ai joué avant. J'ai jamais joué un jeu comme ça. J'ai joué à des jeux qui avaient seulement un clavier, des jeux de hacking, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais avec cet aspect-là ou cette approche-là, c'est très, très rare. Puis c'est quand même très, très simple. Il y a un petit tutoriel au début. On comprend rapidement que nos modules, c'est les commandes. Fait qu'on a besoin de les chercher. Et il y a une interface complète d'aide dans l'interface de commandes qui va nous dire comment on peut entrer les commandes. Je me sens que j'ai dit beaucoup de mots commandes de suite. Donc, donc c'est quand même assez simple à jouer au jeu. Puis il y a une complexité au système de commandes où on peut se faire des alias, puis grouper des commandes ensemble, les séparer par des points-virgules pour qu'ils se fassent d'un coup.
Je suis un petit peu excité, là.
pour les programmeurs en nous, c'est très, 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 très cool. Mais je vous le jure, la minute qu'on détecte du rouge sur la map, on en oublie notre tape-touche. T'es plus capable d'écrire, tu fais des fautes, il faut que t'effaces, mais c'est génial.
T'écris une drone.
J'aime ça, comme là, tu sais plus quoi faire, le système te bouffe bien raide, tu capotes, c'est génial.
Ben, il y a des fois, comme t'es pas présent, puis c'est pour toi qui es dans l'action, t'as pas le choix des fois d'être assis, puis de regarder les infestations, détruire tes drones une par une, puis t'es comme, ben, je peux plus rien faire. Puis tu regardes la fin de ton personnage. Malheureusement, j'ai pas trouvé de patte de divan pendant mon exploration. Mais si j'ai réussi à piquer votre curiosité un petit peu, allez mettre la main sur Dusker. Il est disponible sur Steam, si vous voulez. Puis sur Steam, c'est un jeu qui vaut 21,99$. Donc, c'est pas un jeu super cher. Puis étant donné que c'est un jeu procédural, il y a du contenu à revendre.
Aujourd'hui, dans l'univers de Divan Quest.
Ah, t'as pas une imitation d'une personne célèbre, toi aussi,
Afro? Non, malheureusement.
Et...
Je suis désolé.
Bon, malgré qu'avec l'imitation que Jeff a faite de
Bernard Pivot. Tout se mêle à faire. Hein?
Je peux arrêter ça là.
18 juillet.
Hey.
J'aime tes frais de savoir.
18 juillet.
18 juillet. Je commence en 64. Oui.
Ben, commence.
Grand incendie de Rome causé par la surcharge du serveur informatique qui servait au jeu Jesus and the Apostle Go. Un jeu qui a remis au goût du jour Jésus et ses apôtres 11 ans après son décès en l'an 33.
Mais mon Dieu! Je pensais que c'était en 1964, pas en...
Non, 64. J'avance un peu. 1870, tu vois, je l'ai dit, là, les...
C'est bon, c'est bon.
C'était la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale. Hein, l'infaillibilité pontificale.
J'en parlais justement ce matin.
Oui. Qui dit que le pape ne peut pas se tromper lorsqu'il est question de foi et de morale. À ne pas confondre avec le film Dogme, où Kevin Smith rencontre Dieu, incarné par Alanis Morissette, nu.
C'est quoi ce soundbite-là?
C'est Wesley Willis qui chante Alanis Morissette. De toute beauté. J'avais vu à Dollar Clip à l'époque.
Ah, c'est là que j'avais vu ça. je suis comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est... Ouais, je connais ça.
Écoute.
C'est un hommage vibrant à Alanis Morissette.
Tout à fait.
Dollar à clip.
Ouais, Dollar à clip. Mais il y a d'autres tunes en plus, ce gars-là, je pense. Il faudrait fouiller, mais ouais, Alanis Morissette.
Voilà. Non, on s'en crisse, on veut juste réécouter Dollar à clip.
The natural is back. Yeah.
Bon, 1925.
Ouais, c'est ça, s'il te plaît.
C'est comme. En tout cas, ça change pas tellement le ton. Mais... Publication du premier tome de Mein Kampf, hein, Mon combat, livre rédigé par Adolf Hitler, qui comprenait des éléments autobiographiques, mais surtout toute sa haine et son idéologie totalitaire nazie. Un livre que j'ai personnellement absolument aucune intention de lire, mais qui fait partie de l'histoire tout de même. 1968, Robert Noyce, Andy Grove et Gordon Moore créent la compagnie Moore & Noyce Electronics. Non, ça ne vous dit rien? Ils ont ensuite changé le nom pour Integrated Electronics Corporation à la suggestion de la fille de Noyce. C'est encore long comme nom, mais si on prend les deux premières syllabes, ça fait Intel.
Ah! Oh, on y met de quoi, là? Je dis,
moi, je t'y mets de toi.
OK. T'y mets un aigle, c'est quoi?
Eagle!
Eagle!
1992.
On s'excuse.
1992, un développeur informatique au CERN, Silvano de Gennaro, prend une photo du groupe Les Horribles Cernettes, qui est un groupe qui chante principalement à propos de la physique. Un groupe maison. Plus tard, Tim Berners-Lee va utiliser cette photo-là pour faire un test en la faisant devenir, en fait, la première photo qui a été uploadée sur le World Wide Web.
C'est geek, longtemps.
1995, sortie du jeu Pac-Man en version Linux.
Câlisse.
Après ça, ils diront qu'on peut pas jouer à rien sur Linux.
Le point demeure.
C'était ça le gag. 1997, je savais pas que ça existait ça, mais ils ont fait une ressortie au Japon en tout cas de Super Mario 64 et de Wave Wave. Désolé, c'est.
Fais ça une OCV, toi.
Ouais, c'est
pas facile à soir. Hein?
Wave Race 64, oui. Avec une compatibilité pour le Rumble Pack. J'ai pas vu de version US de ça, par contre, mais au Japon, sorti en 97.
Non, c'est cool.
En 2000, sortie de Diablo 2, version Mac. Après ça, ils diront qu'on peut jouer à rien sur un Mac.
Happy birthday to you.
1913, naissance de Madame Soleil, une astrologue française.
Je
me demande si c'est son vrai nom. En tout cas, c'est son nom sur Wikipédia. 1918.
Ça valait la peine d'être relevé. Merci.
Oui, ça fait plaisir. C'est un Charles. Podcast de service.
Non, mais honnêtement, tu penses que combien d'autres personnes ont parlé d'elle récemment?
Voilà.
Même elle.
Voilà. Elle est possiblement morte, là, mais. J'avance en 1918, hein? Naissance de Monsieur Nelson Mandela.
Ah, je pense que c'était Monsieur Soleil.
Non. À ne pas confondre avec Nelson Brodella. Là. Monsieur Mandela qui a passé sa vie à lutter contre la ségrégation raciale et pour ça, on le remercie. Justement, L'ONU a décrété que le 18 juillet serait la journée internationale Nelson Mandela, journée pendant laquelle chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire des 67 années que Mandela a dévouées à sa lutte. Je ne suis pas sûr si Divan Quest, ça compte, par contre.
Ou on pourrait installer 2 heures dans Pokémon Go. Ça fait comme 60 minutes. Ça compte-tu?
Je pense que oui.
C'est pour minutes,
la collectivité.
Ouais.
Vas-y, on y va à 3, hein? Oh, yarble les dépenses.
J'aiderai 3 petites vieilles à traverser la rue, ça va être l'autre 7 minutes. Puis...
Oh, une, c'est assez, des fois, ça. Mon Dieu.
Ça dépend combien de voix à ta rue.
Ça dépend si elle a une marchette.
1944, naissance de M. Yves Corbeil. Oh, 1950, naissance de M. Glenn Hughes. En tout cas, tant de misère avec son nom de famille. Le dos d'habillé en cuir là, dans, avec la solide handlebar stash là, dans le groupe Village People.
Je pense préciser. Parce que...
Ah oui, lui. J'en parlais justement ce matin.
Intéressant. Paraît que son costume n'était pas que pour la scène et qu'il le portait fréquemment dans la vraie vie aussi.
Ah.
Même année, naissance, mais tout autre cheminement, de M. Jack Layton.
Même moustache, différents costumes.
1967, encore une fois, un peu différent. Hein, après un homme de cuir et un homme d'État, voici un homme de bois. Oh, yeah. Groot! Eh oui, aujourd'hui, l'anniversaire de M. Vin Diesel. Bonne fête, Vin. Je finis avec le prénom du jour, Arnoul.
Moi, je commande plus, non. J'ai abandonné.
T'as assez. Blade and Steel.
Je me donne pas de mon thème.
Moi non plus.
Yes. Fait que vu que cette semaine, on va forcément être occupé à parler en partie de Pokémon Go, non, je me suis dit que j'allais prendre le temps de parler de 2 jeux pour occuper notre quota de rétro gaming. J'ai choisi 2 jeux de la compagnie WayForward Technologies qui sont un peu trop connu pour faire des hidden gems, ce qui est quand même triste à quelque part. WayForward, c'est une compagnie qui se spécialisait dans les jeux de licence. Ça, dans la tête de n'importe quel gamer qui a connu l'époque du NES jusqu'au PS2, c'est pas bon signe. Encore moins sur les consoles portables, et encore moins sur les plateformes de Nintendo, là, si on regarde ce que ça a été même ça a Wii après cette époque-là. Fait que, bref, s'il y a un film ou une émission de télé qui vise les enfants ou les ados, c'est sûr qu'il va y avoir un jeu qui va l'accompagner. Puis trop souvent, la seule qualité, c'est d'avoir le nom du film. Puis si t'es chanceux, une version 8 ou 16 bits de la musique du film.
Mais il faut être chanceux.
Oui, c'est ça. Fait que, mais WayForward avait souvent tendance à développer des jeux simples, puis avec une présentation impeccable, souvent inspirée des jeux classiques, justement, de l'époque 8 ou 16 bits, quand c'était le temps de développer pour le Game Boy Advance puis le Nintendo DS. Fait que le premier titre que je vous présente, c'est leur seul jeu sur GBA qui n'est pas un jeu de licence. On parle de Sigma Star Saga. Sorti en 2005 et distribué par Namco, le jeu est devenu plus populaire un petit peu récemment là, parce que c'est vraiment un jeu très, très différent de toutes les genres traditionnels. C'est un mix de action-adventure, voire Zelda, et de shmup, voire Gradius.
OK.
Mais c'est
tu m'intéresses?
J'essaye, à l'occasion. Le jeu a une présentation qui s'apparente beaucoup plus aux jeux japonais, ce qui est un petit peu normal considérant les genres représentés. Là. Mais dans les deux cas, donc dans le côté shmup et dans le côté action-adventure, on a du super beau pixel art classique, style Super Nintendo, vraiment très, très bien défini. Puis ça commençait à être moins populaire, justement, à l'époque du GBA. Il y avait beaucoup de compagnies qui commençaient à faire des modèles 3D qui réduisaient en 2D parce que ça coûtait beaucoup moins cher à produire. Mais WayForward a toujours, toujours eu un super beau pixel art. Puis ça fait partie de la signature, justement. L'histoire du jeu est assez intéressante. On joue un pilote d'élite terrien dans une guerre contre un envahisseur extraterrestre. Puis on doit infiltrer les forces ennemies comme un quasi-esclave, là, pour faire un résumé sommaire, pour trouver leur arme secrète. Fait que comment se mélangent les deux types de gameplay dans tout ça? C'est qu'on se déplace principalement dans la vue action-adventure à la Zelda pour explorer et faire avancer l'histoire. Puis en général, les ennemis dans ce mode-là, c'est assez simple parce que le personnage à l'écran, il est vraiment gros. Là. Le sprite work, il est énorme. Fait que ce serait difficile de faire des affaires plus complexes. Mais de temps en temps, un peu à la manière d'un RPG japonais, il y a des combats aléatoires, des random encounters, puis on se fait téléporter vers un vaisseau. C'est expliqué dans l'histoire, là, essentiellement, c'est qu'on a comme une espèce de parasite qui est connecté à toutes les personnes de cette race-là et leurs serviteurs. Puis le vaisseau peut appeler le pilote, c'est sans danger parce qu'il lui aussi une créature vivante. Donc, on se promène, puis tout bonnement, comme un combat dans un RPG, on va être téléporté dans les airs pour aller assister le vaisseau.
Mais avec une explication, tu sais, c'est oui. particulier.
Ouais, ça, ben, ça, ça aurait été dur à justifier le changement de gameplay complètement ouais. intense. C'est ça, à ce moment-là, ça devient un shmup. Le vaisseau qu'on contrôle peut changer d'une fois à l'autre parce que ça dépend c'est quoi le vaisseau qui nous appelle. Puis les segments shmup sont pas faciles. Ceux qui sont aléatoires sont quand même moins pires. Mais quand on tombe dans les segments qui sont dictés par l'histoire, c'est raide. Puis, ben, c'est une des features, de toute façon, d'un bon shmup. C'est jamais bien, bien facile. Puis, ça remplit le mandat, là. Puis, dans le côté exploration, dans le côté à la Zelda, pas mal les seuls objets qu'on ramasse, c'est des modifications à la façon que notre vaisseau va tirer quand on est en shmup. Donc, il y a trois types de power-up, ceux pour la direction de nos tirs, ceux pour la vitesse du tir, la direction et la vitesse du tir, l'autre pour le type de trajectoire des balles, puis le dernier, c'est pour le type d'explosion quand la balle elle atterrit. Donc, on peut mixer tout ça, puis se faire de quoi de très personnel, puis on peut toujours alterner vers l'espèce de tir par défaut en ligne droite. Fait comme ça, on expérimente avec de quoi, on est pris dans un tableau, on peut revenir au tir plus standard. Bref, c'est un jeu très, très, très unique, surtout pour une console portable. Il peut vous occuper assez longtemps, là, au risque de devenir un peu répétitif. Par contre, on calcule autour de 13 heures pour finir le jeu. Fait que moi, je donne un 3 pattes de divan avec des tentacules qui font sur 4 à Sigma Star Saga.
Puis c'est un jeu qui on parle de combien aujourd'hui?
C'est autour de 20-25$. Il n'est pas très dispendieux, mais il n'est quand même pas fréquent à trouver. Ensuite, on se déplace sur le DS. Puis le prochain jeu que je vais parler... Tu parlais d'infestation tantôt, GF, et tu parlais d'Alien. Ben moi, je vais vous parler de Aliens Infestation. C'était si peu télégraphié. Publié en 2011 par Sega. Le jeu devait être au départ une version portable de Aliens Colonial Marines. Mais quand le développement de ce dernier a connu des problèmes, avant même de sortir d'être un fucking navet, la version DS avait été mise de côté. Puis quand le développement de Colonial Marines a malheureusement recommencé, la version DS a été modifiée en un titre unique, mais conserve beaucoup des éléments d'histoire qui avaient été développés au début. Mais consolez-vous, là, le peu de choses qu'il y a en commun avec ce gros tas de merde fumant-là, c'est quelques éléments d'histoire. Là. Fait qu'évidemment, c'est un jeu qui est planté dans l'univers de Alien. Pour les fans, ben, c'est un jeu qui se situe autour des événements du deuxième film. Côté gameplay, ben, c'est un Metroidvania. Mais il y a un gros focus sur la prise de risque et sur l'atmosphère. Quand on dit un Metroidvania, on parle d'exploration en 2D, donc trouver des nouveaux items qui nous permettent de progresser. Le jeu respecte ces points-là, évidemment, mais en plus, c'est un jeu de way forward, donc visuellement, on s'entend que c'est très très beau, plein d'ambiance, les animations sont extrêmement fluides, encore du super beau pixel art. Puis quand le jeu décide qu'il veut vous faire faire le saut en laissant un petit chat inoffensif sauter d'une armoire, ben, la trame audio s'assure que vous le faites, le saut. Ce qui rend Infestation unique, c'est qu'on joue une équipe de 4 Marines et que si on meurt en explorant, le personnage est mort pour de bon. Donc, on a parfois la possibilité d'aller secourir un Marine qui est tombé au combat. Il va être dans une île alien, donc à vos risques et périls. Sinon, on croise parfois d'autres Marines qui ont été écartés de leur squad. Puis si on a de la place dans notre équipe parce qu'on en a perdu un, ben, il peut se joindre à nous pour remplacer. Puis pour rendre ça encore un peu plus tendu, ben, il y a très très peu d'objets qui servent à guérir en explorant. Puis on va se guérir dans les salles de communication qui servent de points de sauvegarde puis qui permettent de remplir aussi les munitions pour nos armes. Donc, la gestion de risque en progresser vers le prochain save ou reculer pour se guérir au dernier save connu vient entrer en ligne de compte. Fait qu'on avance avec beaucoup de soin. Parce qu'évidemment, ben, le jeu aime ça faire apparaître des aliens dans des coins sombres pour nous surprendre. Puis pensez pas à sprinter à travers la map là, ou à faire des roulades pour éviter. Là. Oui, il y en a dans le jeu, mais on a une barre de stamina qui limite beaucoup nos actions acrobatiques. Donc, tout est très, très délibéré comme progression dans le jeu.
Mais est-ce que c'est pas un jeu qui se joue comme assez lentement? Parce que le Metroid, oui. Ça peut être rapide, tu peux sauter partout. Puis
oui, ça se joue plus lentement. Puis aussi, l'exploration demande beaucoup de chemins alternatifs pour explorer, pour trouver des objets. Donc, la progression, on le fait avec soin. Plus qu'on avance dans le jeu, plus on se rend compte qu'il y a des endroits où on peut... Quand on backtrack, là, parce qu'on revient à des environnements, puis les ennemis réapparaissent pas mal aux mêmes endroits. Donc, dans ces endroits-là, on se sent libre de plus sprinter. Mais en général, surtout quand ta vie commence à baisser, là, la progression est très, très lente. Fait que c'est par rapport au Metroidvania typique, oui, la progression est beaucoup plus lente. Mais c'est un jeu qui, même malgré une progression lente, c'est assez court. On parle de 5-6 heures pour le compléter. Mais c'est parfait, parce que le jeu manque un petit peu de souffle vers la fin. Mais le stress de voir son équipe se faire décimer pendant les combats contre les boss et le respect énorme pour le matériel source en valent largement la peine.
Ça, c'est le fun. Tu sais, tu parles de respect pour le matériel source. C'est souvent ce qui manque dans ces modules de jeu-là.
Puis, c'est ça, surtout que le jeu de franchise, là, c'est même même si les développeurs ne font pas le temps de penser à une bonne idée, ils réussissent même pas à penser à un bon jeu. T'sais. Fait que ça, en plus, tu réussis à faire un bon jeu, puis à puiser dans ton matériel source, puis de comprendre que Aliens, c'est l'atmosphère.
Ah, c'est ça.
Pas, c'est, l'action est là, oui, mais elle est très, très posée, puis il y a un sens du risque à l'action dans Alien. T'as pas l'impression qu'ils vont s'en sortir, c'est pas des giga badass qui vont gagner. Ils agissent comme ça, mais ils se font décimer.
Puis le monstre est secondaire dans Alien. T'sais, il s'appelle Alien, mais l'Alien en tant que tel, c'est pas lui qui fait le film. Il est là combien de minutes dans le film original?
Ah, puis même
10 minutes, je pense.
Tu le vois à peine au complet. Ouais. Là. C'est ça, c'est pas ça qui est important. C'est
le feel, c'est l'émotion, l'atmosphère.
Exactement, puis ils ont focusé là-dessus, puis ça paye. Puis à sa sortie, justement, c'était facilement le meilleur jeu basé sur Alien.
Mais il y avait le jeu... Alien vs Predator.
Ouais, mais je le considère pas comme un Alien, par exemple. T'sais.
Mais la campagne du Marine, il y avait principalement les Aliens, puis c'était assez stressant. Là. Il avait bien fait le.
Ah, il est super bon en VP2, là. Il était écœurant, sauf que c'est ça. Je le considère un petit peu en marge, vu que c'est AVP, là. Ouais. Alien vs Predator. Là. Mais bon, je lui donne un 4 pattes de divan, plus une petite patte qui sort de la bouche d'une des autres pattes avec la bave. C'est cool. Là.
Réflexion.
Sur ma vie.
Ah!
Ouf.
Ben, c'est l'été, hein? Il fait chaud. Juillet marque le mois où ben, je prends un coup de vieux. Hein? Puis je suis pas le seul parce que Matt, ben, tu m'as précédé d'un petit mois. Puis Dan, ton tour s'en vient bien assez vite. mais quand je me suis assis pour préparer la réflexion cette semaine, j'ai pas pu faire autrement que de contempler les maintenant 32 années que je viens de laisser derrière moi. Hein? Divan Quest, c'est un peu une sorte de point culminant, comme le château à la fin d'un niveau, mais clairement, la princesse est dans un autre château. Les gars!
Oh mon Dieu! Pire numéro d'introduction à En route vers mon premier gala.
Hey les gars! Qui me supporte depuis 32 ans. Toujours là.
Avec toujours autant d'enthousiasme. Oh chien!
Ben, en près de 32 ans de gaming, le médium il a quand même évolué énormément. Mettons que le premier 1.5.
Je sais pas s'ils mettent des formes triangulaires dans des trous triangulaires, j'appellerais ça du gaming, là, mais.
Ben.
Ouais, comparé à certains jeux mobiles,
je veux dire.
Quand même plus de réflexion requise que Candy Crush Saga.
Reste que jamais dans mon enfance, j'aurais imaginé entrer dans l'univers d'un jeu qu'on peut le faire avec la réalité virtuelle. Je vous l'avais dit, je vous dis, j'aurais été heureux à 14 ans, par exemple.
Oui, on sait.
Et en 1998, pendant mon secondaire 4, assis dans la cafétéria, j'aurais jamais cru que mes Pokémon allaient un jour envahir le quartier puis passer à la réalité augmentée.
Donc,
non plus.
T'en avais pas. C'est moi qui avais des Pokémon. Essaye pas, là.
J'ai joué à Pokémon Red dans le temps, comme tout le monde.
J'ai du Street Cred.
Come on. Du Geek Cred.
Du Poké Cred. Ouais, come on.
Poké Cred. Mais comme beaucoup de kids du milieu des années 80.
Moi, j'aime mieux Apollo Cred. Excuse.
J'en ai un drop.
Ding ding.
Mais comme beaucoup de kids du milieu des années 80, mais mon premier contact avec les jeux vidéo, ça a été Super Mario au NES. Donc, à 3 ou 4 ans, mon père a ramené la fameuse petite boîte grise à la maison, puis je commençais déjà à m'entraîner les pouces. C'est avec des jeux comme Cobra Command puis Teenage Mutant Ninja Turtles que j'ai appris les bases du anger management.
Le bon ou le pas bon, c'est ça.
Et elle a donné ma patience. Donc, merci beaucoup, Nintendo, pour ces années formatives de ma jeunesse. Mais étrangement, le NES, c'est la dernière console que j'ai possédée jusqu'au Xbox 360. Vraiment plus tard, quand je me suis payé moi-même avec mon argent de poche. J'ai eu quand même accès à un Sega Genesis, à un Super NES, éventuellement un Nintendo 64 assez facilement, soit chez des amis ou chez des cousins, des cousines. Mais c'est en 97, à 11 ans, avec l'arrivée à la maison de notre premier PC, un Pentium 2, 233 MHz, dans le temps où les cartes graphiques Voodoo 3, c'était the shit.
Même moi, je me rappelle de son PC.
Moi aussi, j'ai quand un P2233. C'était pas terrible.
Moi, j'avais pas de PC à l'époque.
Mais dans le temps, c'était cool.
Mais c'était ça, c'était le début des accélérateurs 3D. Là. Ouais. Là, comme, on n'en avait pas. Fait que un P2233, mais ça roche pareil.
Reste que c'est dans ce temps-là que je considère que je suis vraiment devenu un gamer. Dans le fond. Même si j'avais déjà eu l'occasion d'explorer le PC gaming sur le 486 de ma marraine en jouant à la version originale de Prince of Persia ou de Doom avec ses 4 disquettes 3 pouces et quart avant, c'est vraiment devenu une passion avec des jeux de bizarre comme...
Non.
3 pouces et quart.
Ah oui, 3,5, 5 et quart. Voyons.
5 et quart,
3,5.
Ouais. Une grosse toile et une petite
À ne pas confondre avec 4,5 et...
Allez-y.
Allez-y.
Ça aussi, j'ai un drap.
Non, c'est vraiment que c'est avec des jeux comme les jeux de Blizzard, entre autres, comme Warcraft, Orcs and Men, Diablo 1 ou le premier Starcraft, avec des jeux comme MechWarrior, avec le Rainbow Six original, ou avec le jeu que je considère toujours aujourd'hui comme étant mon titre favori, puis qui m'a apporté un intérêt pour le game design, qui est Half-Life, en fait. Tous ces jeux-là, tout cet univers-là avec lequel j'ai grandi, veux pas, ça m'a permis de socialiser toute ma jeunesse avec des gens qui avaient des intérêts semblables. « Hey, t'as-tu vu les images du dernier boss? Hey, il paraît que tu peux attraper le G-Man dans Half-Life. Hey, c'est écrit « Power Overwhelming » dans le chat, là, StarCraft. Il paraît que tes Marines vont être invincibles. Wow, faut que j'essaye ça à soir en arrivant. » Puis plus tard, j'ai même élargi ma définition du gaming en devenant pauvre et accro à Magic the Gathering.
Oui, oui.
Avec Danny, on a partagé cette passion.
Cette pauvreté-là.
Et j'ai aussi passé un nombre incalculable d'heures à utiliser mon imagination puis un dé à 20 faces pour parcourir les donjons puis les dragons qui se cachaient dans le sous-sol de la maison, avec Danny aussi. Puis comme un addict, quand l'imagination était plus une drogue suffisante, ben on s'est déguisé, Dan, on s'est fabriqué des armes en duct tape, en PVC pour aller vivre l'expérience grandeur nature.
On en rit souvent. Un terrain vague près de chez vous.
Mais on en rit souvent, mais dans le fond, c'est toutes ces expériences-là qui m'ont amené à être la personne que je suis aujourd'hui puis qui ont forgé des belles amitiés, comme en traduit Divan Quest. Parce que dans le fond, les vrais chums, c'est ceux avec qui on partage un champ de bataille dans le fond d'un rang à Notre-Dame-de-Lourdes en portant une cotte de maille faite maison puis en criant « 3, 3, 3, 3, 3! »
Lightning bolt, lightning bolt, lightning bolt.
C'est aussi la même histoire qui mène à mettre fin à des amitiés aussi, par exemple.
Ça dépend toujours des gens.
Mais avec les années, vient un petit peu de sagesse. Puis en vieillissant, on remarque que la majorité des jeux, des films, de la culture populaire qu'on a tant apprécié il y a quelques années sont développés avec aujourd'hui en tête une mince tranche de population majoritairement âgée de moins de 30 ans. De plus en plus de nouveautés commencent à nous paraître un petit peu juvéniles, puis on commence à avoir l'impression d'avoir un petit peu fait le tour du manège. C'est souvent de plus en plus difficile de connecter avec nos passions adolescentes. Mais c'est en écoutant un documentaire en préparant le podcast sur YouTube qui s'appelle « Growing Up Gaming », dans lequel il y a des gamers modernes qui sont interviewés sur les jeux qui ont marqué leur enfance, puis j'ai fait une réalisation. Les personnes questionnées, ils avaient toutes débuté dans le gaming avec des jeux comme Halo ou Super Smash Bros. Brawl. Puis ma première réaction, c'était de me trouver soudainement vraiment vieux. mais dans le fond, c'est correct parce que c'est eux maintenant le public cible. Puis c'est le temps de passer le flambeau un petit peu, de leur laisser la chance de se forger leurs propres souvenirs, leurs propres aventures, comme on l'a fait avant eux, finalement.
Tu veux dire comme de mettre le flambeau sur eux autres pour qu'ils brûlent?
Non. Mais, tu sais, je me souviens de mes premiers pas à Super Mario au NES, de la même façon que mon fils va se souvenir de ses heures passées à Minion Rush sur l'iPad. Puis, dans 30 ans, il va être aussi nostalgique qu'on l'était aujourd'hui. Cependant,
j'y souhaite pas.
Mais reste que... Si les Call of Duty et les Gears of War sont plus développés en fonction de nos intérêts trentenaires, mais il y a quand même des nombreux développeurs qui choisissent le chemin ardu et tortueux du développement indépendant. Puis grâce au crowdfunding, aux programmes comme Steam Greenlight ou ID at Xbox, puis au soutien d'une communauté de gamers qui grandit toujours, il y a de plus en plus de jeux qui sortent des chantiers battus, puis qui tentent d'apporter des nouveaux concepts, puis qui cherchent à s'adresser finalement à nous, enfants des années fluo, des Coupe-Vent Vuarnet et des Discman Jones. Parce que dans le fond, comme l'a déjà dit le célèbre écrivain irlandais George Bernard Shaw, on n'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux, mais on devient vieux parce qu'on arrête de jouer.
View.
Moi aussi, je l'aime encore, mon thème.
Faites toujours bien ça.
Merci de nous rappeler ces années folles.
Ça fait plaisir, Dan.
Hey, vous savez que c'est quand même assez rare que sur Divan Quest, on jase d'un jeu qui est très connu ou super populaire. T'sais, ça arrive, mais c'est rare.
Ouais, je me demande de quoi on va parler. C'est quelqu'un qui peut me lire la description du pod, mais
non. C'est encore plus rare qu'on parle d'une nouvelle qui passe dans les médias de masse. Ce serait peut-être la première fois si c'était pas de...
Il y a une bibitte noire dans le salon, dans le salon.
Céline Poulin est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton.
Est-ce que quand je monte le pod, je la ris encore? C'est carré.
Peut-être que l'été puis le nombre de nouvelles beaucoup moins grand dans les sphères politiques, économiques ou sportives aide, mais les médias de masse parlent d'un sujet dont je voulais aussi parler.
La chasse aux Pokémon, c'est la nouvelle folie. Il y a des milliers de personnes qui y participent partout à travers le monde.
Bref, ces petits monstres japonais créés en 1996 n'ont pas fini de nous envahir. Marie-Christine Bergeron, TVA Nouvelles, Montréal.
Que ce jeu soit ou non un phénomène éphémère, une chose est sûre. Il nous montre que l'on rentre actuellement dans l'ère de la réalité augmentée, un univers où la frontière entre le réel et le virtuel sera à chaque jour de plus en plus mince. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.
Quand on parle des petits monstres là, japonais qui sont nés en 96, là, on parle des millennials qui ont 20 ans.
Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu raciste à TVA.
Oui, là, c'est le jeu qui est le parfait exemple de c'est quoi la réalité augmentée. Là. Oh oui. Mais de dire que la limite entre le réel et le virtuel... Il n'y a personne qui se dit « Oh, Steven, ils sont là pour de vrai. »
Il y a des Squirtles qui sortent de mes toilettes.
Câlisse. Merci, TVA.
Donc, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, c'est pas une surprise pour vous d'apprendre que je suis un grand fan de Pokémon. Particulièrement des jeux de la première génération. C'est ceux que j'ai découverts à l'époque...
Pas des vieux harnais, un petit peu après.
Un petit peu après, mais à l'époque de secondaire et du vieux Game Boy. Depuis que j'ai entendu parler de Go, je vais l'appeler comme ça là, parce que Pokémon Go, c'est un peu long. Puis le diminutif qu'on utilise souvent à l'écrit, mettons que c'est un peu weird quand on le dit à l'oral.
Eh oui, vous apportez d'autres pour vous.
Oui, mais prends les vrais. C'est écrit, c'est pas bon.
Pas Pogo.
Donc, depuis que j'ai entendu parler de Go, je voulais l'essayer. J'avais hâte d'essayer. La bêta s'est jamais rendue au Canada. En tout cas. Donc, j'ai pas pu le tester pendant ce temps-là. Mais quand il y a presque 2 semaines, là, à la date où le podcast va sortir, j'ai vu que le jeu commençait à sortir. Je suis retourné à mes 13-14 ans et j'étais un peu énervé. Pour ceux qui habiteraient sous une roche ou dans une caverne là, qui n'a pas d'internet depuis 2 semaines, Go, c'est le nouveau jeu de Niantic en collaboration avec Nintendo et de Pokémon Company. C'est un jeu dans lequel le joueur doit capturer des Pokémon, ces petits monstres japonais, qui se retrouvent un peu partout dans le vrai monde. Il faut donc sortir de la maison et bouger pour les trouver. Je reviens tantôt un peu sur le gameplay, mais très rapidement. Là, je veux surtout revenir un peu à la sortie du jeu. Pour le moment. Alors, le jeu a commencé à sortir en Australie, en Nouvelle-Zélande pour commencer, puis dès ce moment-là, la folie a commencé. Bon, t'avais les États-Unis d'un bord là, qui criaient à l'injustice, qui étaient sur le bord de sortir les fourches puis les torches. Là. Bon. Puis le reste du monde, en général, était plutôt...
Disappointed!
De pas pouvoir jouer. Mm. Pour ceux qui ont un téléphone Android, ben on pouvait déjà installer le jeu directement là, en passant par l'installateur, par le APK. Bon, petite parenthèse, il y a quand même des risques de faire ça parce qu'il y a des gens qui ont rajouté des lignes de code dans le jeu pour avoir accès à des trucs qui n'étaient pas supposés avoir. Donc, à faire attention, c'est ceux qui passeraient sur le... Écoute, j'espère que rendu au moment que le pod sort, c'est sorti, mais bon. Pour ceux sur iOS, la seule façon, ben, c'était de créer un compte iTunes australien là, pour faire croire qu'on habite là-bas avec les kangourous.
Et c'est plus dur que ça paraît.
Quoi, de vivre en Australie, j'en doute pas.
Donc, malgré les embûches, il y a quand même des millions de téléchargements qui ont été faits. Puis c'est clair que c'est à l'extérieur des pays où ça a été commencé. Puis Niantic était vraiment pas aussi près qu'il le pensait parce que, mettons que ça l'a rushé pendant un bon bout de temps, les serveurs.
Non.
Le lendemain, le jeu est officiellement sorti aux États-Unis. Puis là, ben les serveurs ont juste...
Oh my God! We're having a fire sale! Oh, the burning!
Désolé, c'est pour les fans d'Arrested Development. Donc, les serveurs ont probablement pris feu, réellement, parce que c'était extrêmement instable. C'est quand même un peu moins pire au moment où je vous parle. On est le 14, mais c'est encore pas génial, puis il y a encore beaucoup de crash de serveurs. Bref, les serveurs ont décidé que c'était temps de prendre des vacances. Maintenant, ben c'est ça. Dans les heures moins achalandées, ça se gère assez bien, mais c'est quand même un peu rough. Fait que ça, c'est comme les bouts qui marchent pas super bien. Mais aujourd'hui, je voulais pas parler de ce qui est pas génial du jeu, parce qu'on pourrait parler de tous les petits problèmes au niveau de ça. On pourrait parler des problèmes puis du manque de certains éléments, des problématiques qui viennent du comment le jeu est venu, mais...
Mais clairement, le jeu brille pas à travers son design présentement.
Voilà. Fait que espérons qu'ils arrangeront les trucs qui marchent pas. Moi, je veux vous parler aujourd'hui de la folie puis du phénomène qui se produit. Tu sais, parce que malgré la frustration des serveurs qui chient non-stop, je continue de jouer, là, personnellement.
Puis t'es pas le seul, je veux dire.
Puis je suis pas le seul.
Ça devrait pas bien fonctionner, combien de monde joue à ce jeu-là.
Puis je suis le genre de gars, moi, que quand ça foire, là, surtout quand que c'est une version officiellement non-bêta, mais qui l'est pareil, je finis par me tanner et dire, je reviendrai. Mais là, non, là, je m'entête. J'ai passé un 15 minutes debout à essayer de me reloguer parce que je voulais savoir si j'avais réussi à mettre mon Pokémon dans le gym, tu sais. voilà. Donc,
on le fait. Ok, je vais dire hashtag mettre le Pokémon dans le gym. Ok, c'est bon, c'est bon.
Au moment d'enregistrer là, le 14, le jeu est toujours pas officiellement disponible au Canada. En même temps, ben Niantic a rien dit à propos des installations pirates.
Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
Ouais, deux fois, c'est un bon pote.
Puis ils ont tellement pas de problème avec ça qu'ils te laissent même dépenser de l'argent dans le shop.
Voilà, fait que tu sais, on imagine qu'ils laissent aller, qu'ils laissent couler, qu'ils laissent. Bon, bref. Fait qu'un petit bout sur le gameplay, là, juste pour ceux qui n'auraient pas encore essayé parce que font pas confiance aux installations parallèles ou parce que, je sais pas, il n'y avait pas d'Internet, t'es parti en vacances dans le bois depuis deux semaines. Le gameplay est assez simple, là, à la base. Notre personnage est sur une carte qui provient direct de Google Maps. Puis pour le faire se déplacer, ben, on doit physiquement se déplacer. Hein, on commence, on voit apparaître trois Pokémon qui sont les starters originaux, là, Squirtle, Bulbasaur puis Charmander. Puis on peut en attraper un seul, les autres vont disparaître. En passant, si on décide de s'en aller, de marcher, de s'éloigner des Pokémon, des trois starters, il y a un Pikachu qui va apparaître un peu pour faire un clin d'œil à l'animé. Ça peut être intéressant si c'est ton Pokémon préféré ou moins intéressant si tu le savais pas et tu commences ta quête comme passager dans un auto. Il y a au moins une personne qui se reconnaît. Un peu partout sur la carte, dans le fond, peuvent apparaître, peuvent spawner des Pokémon qu'on peut attraper. Pour ceux qui connaissent les jeux, c'est plus le style Safari Zone qu'autre chose, là, où est-ce que tu vas pas vraiment combattre les Pokémon, tu vas juste leur pitcher des Pokéballs. Puis là, il y a plein de monde qui a fait des memes sur Internet en disant que Messenger, c'est ce qu'ils nous préparaient avec le petit jeu où est-ce qu'on lance des boules, des ballons de basket, puis le jeu où est-ce que tu lances des boules de papier. Là,
Ouais, le paper toss. Là.
Donc, c'est un peu le même concept. Puis on peut avoir le Pokémon, mais en réalité augmenté. Donc, c'est là que ça peut la magie embarque, puis on voit apparaître nos Pokémon dans notre environnement.
C'est là que la ligne entre le réel et le virtuel est le plus mince.
Puis on attrape le Pokémon, puis on recommence à l'infini.
Voilà.
En dehors de ça, ben, y a des Pokéstops qui sont des points d'intérêt qu'on peut visiter à peu près aux 5 minutes pour avoir des items de l'expérience. Il y a aussi des gyms qu'on peut attaquer, qu'on peut capturer à partir du niveau 5, selon notre team, on a comme trois équipes.
Puis ces endroits-là sont basés sur des endroits importants, des endroits du monde réel.
Voilà, des endroits du monde réel, beaucoup des points d'intérêt là, historiques ou...
Des œuvres d'art.
Des œuvres d'art, des choses comme ça. Des fois, c'est un peu weird. Là. Des fois, c'est un rack à vélo qui fait un S parce qu'il cherchait quelque chose. Il y en a des weird. Là. Quand tu trouves sur Reddit, il y a des drôles de points d'intérêt. Ou il y a des places que l'œuvre d'art n'est plus là.
mais l'impression que j'avais de ça, c'est que les... Parce que... Je sais pas si on en parler, que c'est basé sur le.
Oh oui, mais vas-y.
Okay, par contre, Pokémon Go, c'est basé sur l'architecture de Ingress, qui est développé par Niantic aussi, qui est un jeu semblable où on hackait le monde finalement. Et puis c'était les joueurs de Ingress qui prenaient des photos et qui suggéraient les points d'intérêt. Fait que pour tous les jeux qui se retrouvent présentement dans Pokémon, c'est probablement des points qui viennent de Ingress qui ont été récupérés.
Oui, c'est pas mal ça.
Fait que c'est envoyé par les usagers de Ingress, fait que c'est quelqu'un qui. Qui promet stationner son vélo là régulièrement, puis il a dit j'ai un point là.
Il a dit ça quand même, attends. Je pense que je le connais.
C'est le langage des joueurs d'Ingress.
Donc, on a comme un choix de trois équipes, là, l'équipe bleue, rouge et jaune.
Il devait beaucoup se texter au lieu de parler aux autres, hein, parce que.
C'était pas clair, ça. Oh, il y a un point là-bas. Donc, ici à DivanQuest, on a choisi l'équipe bleue.
Ah oui, c'est vrai. Oui. On a fait ça.
J'avoue qu'après le recul puis voir les stats commencer à sortir, là, j'aurais préféré choisir jaune. J'ai un petit côté underdog qui aime choisir ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, on peut capturer les gyms. Ça nous donne, quand on les tient là, pendant un bon moment, ça nous donne certaines currencies, là, certains types d'argent, si on veut, du jeu. Des poussières qui nous servent à booster nos Pokémon ou du gold qui sert à dépenser dans le store. En gros, là, c'est pas mal ça comme gameplay, mais c'est simple, mais totalement addictif, là. Surtout pour quelqu'un qui aime les Pokémon. Mais tu l'as dit tantôt, là, ce jeu-là, c'est un peu le successeur spirituel de l'autre jeu de Niantic qui s'appelle Ingress. Donc, grosso modo, thématique beaucoup plus sci-fi, où est-ce qu'on contrôlait des points, on hackait des trucs, puis c'était basé justement là, l'histoire du jeu, mettons des gros guillemets sur le fait que ça prenait des points historiques pour pouvoir hacker. Là. Puis c'était surtout un gros... Comment tu avais dit ça tantôt, Mathieu? Tu as dit un mot parfait, là. Chasse au trésor de données pour Niantic et Google, là, qui était...
De données de géolocation, là.
C'est ça, c'était un bel outil pour Google de faire du crowdsourcing directement d'informations de la
part. Allez, vous prenez dans le monde, puis ramenez-nous des données GPS, tu sais.
Et voilà.
Mais c'est un jeu qui a quand même relativement bien fonctionné, mais qui a comme jamais sorti sur iOS, je pense.
Non, il est sorti sur iOS cette année.
Après que tout le monde ait arrêté de jouer.
Voilà. Fait que, tu sais, il y a quand même une base un peu moins importante. Puis je l'avais un peu essayé à l'époque, mais habitant en campagne, c'était très difficile de jouer. Il fallait prendre l'auto pour aller se promener super loin.
Ouais, c'est ça. Puis il favorisait beaucoup les gens qui se déplaçaient sur des grandes distances pour faire des actions. Puis ça rendait ça un petit peu inaccessible.
Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, faire 3 km, 25 km de char pour aller cliquer un point, ça va dans ma vie, j'ai autre chose à faire.
Puis des fois, ils te demandent de rester longtemps à un endroit pour affecter. Fait que là, c'est comme, bon, mais je vais-tu vraiment dépasser 3 quarts d'heure là pour attaquer un point de contrôle? Ouais,
mais
bon.
Il y avait une mécanique quand même intéressante où les, quand tu attaquais les points de contrôle puis tu les gagnais, ça, tu avais une chance que ça donne la clé de ce point-là. Puis quand tu avais la clé, tu pouvais partager la clé avec d'autres joueurs. Fait que si 3 joueurs se rencontraient et avaient les 3 clés de 3 points, mais ils pouvaient les donner à un joueur, puis ce joueur-là pouvait créer une zone, puis ça l'attachait ensemble comme tous ces points-là. Tous les points dans le centre tombaient de ta couleur puis de ta faction. Puis l'idée, c'était qu'il fallait contrôler le monde puis contrôler des villes. Puis il y avait une histoire de contrôle mental puis tout ça, de la population. Puis il y en a eu un qui partait de New York, Moscou, puis genre, je sais pas, Beijing, quelque chose comme ça.
Il y a du monde qui font des affaires vraiment intéressantes puis le reste du monde les regarde faire.
C'est ça. Voilà. Ouais. Exactement.
Fait que c'était un peu le successeur. Puis comme tu l'as dit, ben, la majorité des points ont été transférés à Pokémon. Je pense pas qu'ils ont tout transféré les points, là, mais ils ont transféré les points d'intérêt de Ingress. Puis même les points où dans Ingress, ils se ramassaient des... j'oublie le truc là, d'énergie, mettons, là, pour pouvoir faire les actions. C'est les points où spawneraient les Pokémon, mais là, il y a encore un peu de flou autour de ça. C'est pas tout à fait certain. Donc, jusque-là, j'ai rien dit de nouveau si vous avez un peu suivi l'activité des derniers jours, hein, l'actualité plutôt des derniers jours, hein, même TVA puis Radio-Canada en ont parlé, entre autres. Vous demandez
avec brio
pourquoi vous continueriez d'écouter le vieux sénile qui vous parle d'affaires niaiseuses qui sont là, puis qui ne sait plus parler, en fait. mais non, ce dont je voulais vous parler, c'est vraiment plus l'ampleur un peu ridicule que prend le jeu, le phénomène. Surtout sur Internet, là, parce que en fait, le fait qu'on en parle dans les médias traditionnels, c'est déjà quelque chose de spécial, mais si on revient à notre monde, à nous, sur les internets web, c'est assez impressionnant ce qui se passe. Donc, c'est un peu pour vous parler de ça là, que je voulais vous parler de Go. J'ai beaucoup suivi, moi, les derniers jours Reddit, puis je voulais, là, un peu pour illustrer mes propos, faire sortir certaines histoires que je trouve intéressantes, amusantes ou impressionnantes que le jeu a fait apparaître. Je vais aussi terminer à la fin avec peut-être quelques trucs que je pourrais donner aux nouveaux entraîneurs. Là. Pas parce que je suis un pro, mais parce que j'ai un peu plus joué que d'autres. Puis j'ai surtout beaucoup lu sur le sujet. Hashtag vacances geek, en tout cas.
Puis le jeu a quand même le mérite d'être très, très vague. Ouais. Donc, les conseils, ça, c'est une belle mécanique de forcer les gens à interagir entre
eux. C'est ça. T'sais, j'ai vu des gens qui se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas, mettons, un gros livre de règles qui dit toutes les informations pertinentes. Mais ce point-là, moi, j'aime le côté où est-ce que j'ai beaucoup appris en lisant sur Reddit. Puis des gens qui ont fait des tests, puis des essais, puis finalement, l'autre qui dit non, ça marche pas, regarde, j'ai une preuve que ça fonctionne pas. Puis c'est ce côté-là que je trouvais intéressant.
On parlait des discussions de cours d'école sur des trucs de jeu. J'en ai eu dans le centre-ville à Joliette. Là.
Ben voilà, j'en ai eu dans le centre-ville à Joliette aussi. Avec un
t'es d'accord à l'école, toi?
Non, mais c'est des cours d'école.
Je pas heureusement, ça, c'est l'été. Pas légalement, non.
c'est ce côté-là qui est super intéressant. Puis il y a quelqu'un qui avait relevé sur Reddit que oh, enfin je comprends les lyrics de la toune de Pokémon, là. You teach me and I'll teach you. Voilà.
Ça me semble pas une phrase compliquée, là.
Donc je commence avec un peu de fait vécu, hein, ce qu'un de mes idoles aurait probablement pas apprécié. Là.
Merci beaucoup.
C'est gentil, le human interest, ça me fait chier.
Aïe aïe.
J'ai réussi à mettre Michel Chartrand dans un thème sur les Pokémon, c'est n'importe quoi, mon enfant. Je commence avec peut-être les histoires les plus connues, ceux qui ont fait les médias de masse. Question de les mettre de côté puis de m'en débarrasser un peu plus rapidement. Vous avez peut-être entendu parler de la jeune Shayla Wiggins qui était allée à la rivière pour respirer, attraper des Pokémon aquatiques puis qui a trouvé un cadavre.
Ah.
Bon, semblerait que ce soit le résultat d'une mort accidentelle, mais il y avait un cadavre où est-ce qu'elle est allée trouver des Pokémon. Reste que c'est quand même quelque chose que tu ne veux pas voir dans ta vie. En passant. À Kotaku pour son important update sur l'affaire qui a contacté la jeune puis qui nous a dit Shayla nous a dit qu'elle n'a pas capturé le Pokémon aquatique qu'elle pourchassait parce qu'elle a arrêté de jouer pour appeler la police.
Ah, petite gang d'épée. Et voilà. En un seul article, tu viens de résumer tout le Kotaku. Problème avec Kotaku.
Internet frappe encore.
Il y a aussi l'histoire assez connue des 4 voleurs qui utilisaient Pokémon Go pour attraper des jeunes, qui suivaient des patterns assez faciles à prévoir, hein, pour aller d'un Pokéstop à un autre. Ils ont volé à main armée 8 ou 9 personnes au moins. Ils ont été arrêtés rapidement par la suite, puis devront répondre à des accusations assez importantes. Là,
Est-ce que Kotaku a réussi à nous savoir, ils ont volé combien de Pikachu?
J'ai pas.
Calique.
Mais Team Rocket, plus rapide que la lumière.
Ouais, non, je pense que si ça avait été ça, ça aurait été drôle, mais non, ils volaient vraiment les gens avec des vraies armes. Mais bon, ils ont eu des accusations très importantes. Là. C'est des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, mais ils vont être accusés puis jugés comme des adultes. Puis, tu sais.
Bon, ouais, prendre ça au sérieux.
Tant mieux, parce que c'est pas drôle.
Faut tuer ça dans les FNW, anyway, ce genre de comportement-là.
Dans la même veine, j'ai l'histoire d'un gars qui a pas trop réfléchi, qui a vu une leurre. C'est un module qu'on peut mettre sur un Pokéstop pour attirer les Pokémon. Puis ça attire aussi les gens. Donc, dans un parc assez sombre, puis qui s'est fait suivre par un gars louche qui sortait des toilettes. Sérieux, là, le gars s'est fait arrêter finalement, là, le gars louche, là, parce que l'autre a réussi à trouver quelqu'un. Mais sérieux, soyez intelligent, le monde qui joue à Pokémon. Là. Mm. S'il y a une lure dans un parc sombre, il n'y a pas de maudite lumière. Mais, fuck off.
En plus, l'idée du jeu, c'est que tous les points d'intérêt sont des lieux publics pour éviter que tu te ramasses dans un petit crise de raccoin puis t'arrives de quoi de pas correct. Servez-vous de vos têtes. Là, s'il est minuit, demi, une heure, là, le parc, là, c'est peut-être pas le meilleur spot. Si t'as 15 ans, mettons.
Mm. Oh, même si t'es plus vieux. À moins que tu cherches Joël Legendre.
Non, c'est Je suis tellement fier de toi.
Comme d'habitude, ben, c'est les histoires d'horreur qui ressortent dans les médias. Hein. C'est ce qui arrive avec...
Something, something, something dark side.
Contient de l'écrapou.
Puis, il y a des belles histoires, par exemple. Puis ça, Reddit en est plein. Puis c'est surtout là que je m'en venais avec une introduction de 8 km. J'ai arrêté de compter le nombre d'histoires rapportées là, de gens qui disent avoir un problème de poids, qui disent qu'ils étaient atteints de dépression sévère ou de problème d'anxiété, puis qui, à cause de Go, sont mis à sortir de chez eux, sont mis à bouger, à marcher, à voir et échanger d'autres personnes, ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui est atteint d'anxiété là, de sociale. Puis à une époque où les histoires de racisme puis de fusillade font les nouvelles constamment, c'est le genre d'histoire qui fait mauditement du bien. Même moi, j'ai jamais autant bougé pendant mes premières semaines de vacances. Là. Généralement, là,
c'est les semaines... La léthargie.
Ah, tout à fait. Je restais foiré dans mon sol, puis je suis comme, bon, à quoi je joue? Puis à quoi, qu'est-ce qu'il y a les scraps? J'écoute sur Netflix. Mais là, je pense qu'il n'y a pas une journée, peut-être une journée parce qu'il y a eu des solides orages, il n'y a pas une journée où est-ce que je suis pas au moins sorti de chez nous prendre une marche dans le milieu de nulle part, parce que j'habite en campagne, où est-ce qu'il n'y a pas de Pokéstop, rien, en me disant, ben, au moins, je vais faire éclore des œufs. Mais il y a aussi en arrière, ben, au moins je vais bouger un peu, puis c'est extrêmement répandu. Puis il y a aussi toutes les histoires des gens, surtout dans les premiers jours, là, qui se faisaient accoster par la police parce qu'il y avait un comportement étrange, hein, qui faisait juste chasser les Pokémon, mais qui passait sur une rue en char ou qui tournait en rond d'une place.
Une chance que la loi anti-rassemblement à Montréal est tombée.
Ah! Récemment. Tu mets de l'heure, la police arrive.
Hey, t'es obligé de donner ton itinéraire de chasse de Pokémon. Puis parlant de police, ben écoute, j'aurais dit, un petit shout-out hier, donc là, le 13. Il y a du monde qui ont posté sur Facebook qu'en soirée, ils jouaient là, vers 11h. Il y a un char de police qui est passé, puis qui a mis sur les speakers le thème de Pokémon en plein centre-ville, en sachant très bien que le monde est en train de jouer. C'est vraiment cool là, de rejoindre autant de monde que ça.
Reddit est rempli d'histoires de gens qui ont rencontré des policiers, que ça l'a bien fini. Là. Tu sais, même des histoires de jeunes noirs, mettons, qui rencontraient des policiers, puis que généralement, ça se passait pas super bien. Puis là, maintenant que mettons, les forces de l'ordre commencent à comprendre le concept de Pokémon, ben, tu sais, ça se passe mieux, des belles interactions, des interactions positives entre deux parties de la population qui étaient comme vraiment à couteau tiré, ben, qui sont encore à couteau tiré, là, mais ben, tu sais.
Puis n'importe qui, c'est rare que quelqu'un est comme, oh, j'ai eu une altercation. En fait, j'ai dû jaser avec un policier, puis que je savais pas pourquoi il m'interpellait, tu sais. Puis j'ai vu justement une photo de, ah, oh, j'ai vu un policier en train de jouer à Pokémon, puis j'ai demandé de prendre une photo, puis il y a genre un PJ avec des menottes.
Oui, j'en ai vu où c'est qu'il est en train de l'embarquer dans le char. Tu sais, c'était carrément le dude qui dit « Ben, j'ai rencontré un policier, j'ai montré comment fonctionnait le jeu. » Des histoires super drôles de gens que, tu sais, ils se faisaient croiser par la police, puis mettons, les policiers faisaient leur job quand même. Ils disaient « Ben, le parc est fini, fermé à 10h30, puis là, ils repassent à côté, puis les policiers, ils ont carrément capturé le gym avant de partir. » Le policier qui est à l'autre « Hey, c'est-tu là? Ben là, je veux juste faire les Pokémon. » C'est mon gym, c'est votant. Il y a comme un côté humoristique dans l'interaction avec le policier qui rend sa job de protecteur des citoyens un peu plus
humaine.
Mais une chance, parce qu'il pourrait tellement scraper ça.
Oh, ben, il y en a des histoires là, de gardes de sécurité sur des campus qui disent allez-vous-en. Mais il y a aussi des histoires de gens qui disent ben, je suis allé leur expliquer c'était quoi. Je suis allé leur dire qu'on devrait plus, comme justement, empêcher le monde de leur crier des bêtises parce que c'est du monde qui se promène puis
ben oui.
Tu sais, qui font rien.
Ça, c'est son honnête, là, puis il faut en parler de ces histoires-là.
Ouais.
Je suis content qu'on le fasse.
T'as aussi l'histoire de business qui ont compris,
oui.
Hein, puis qui servent de Pokémon Go pour faire de la pub, allant du panneau qui annonce qu'il y a un Pokéstop, venez magasiner notre vêtement puis capturer le Pokéstop en même temps, jusqu'au pub qui dit qu'il organise une soirée où est-ce qu'entre 6h puis minuit, il va y avoir des lures constamment pour que les clients puissent prendre une pinte en capturant des Pokémon. Puis il y a d'autres places aussi qui disent ben mettez une lure sur le spot devant votre serveur puis on vous donne une pinte gratis. Ou, c'est le genre de trucs qu'on a quand même vu. Puis les lures sont pas dans des endroits de business, commerciaux, mais tu sais, ça peut être assez proche que l'autre bord de la rue, une statue. Puis...
On a effectivement découvert que notre watering hole, notre pub préféré à Joliette, l'Albion, l'autre bord de la rue, en face, il y a une maison historique. Puis il est très, très bien accessible de la terrasse avec une petite peinte.
Oh, et même de l'intérieur jusqu'à un certain point.
Voilà.
Il faisait 38 hier, fait qu'à l'air climatisé, genre, ça pogne.
Je me suis installé une soirée, je mettais des leurres en face, puis je regardais le comportement des gens sur la rue, voir lesquels qui jouaient.
Quand c'est tout le monde qui ralentit puis qui s'arrête.
Ah oui, qui arrête dans le milieu du parking ou qui sont genre 4-5, clairement la face dans leur téléphone. Puis t'es comme, oh, il vient d'arrêter parce qu'il a vu l'heure.
Juste mettre un leurre pour voir ce qui se passe, c'est plus drôle quasiment que de capter les Pokémon.
C'est de l'anthropologie. De Pokémon.
Ouais. Donc, je pense qu'une de mes histoires préférées, qui est peut-être pas la plus belle ni la plus touchante, mais qui est une des plus drôles à mon avis, il y a l'entraîneur Pink Nose qui a décidé de placer dans le gym, qui est dans l'église baptiste de Westboro, un Clefairy, un Pokémon de type fée qui est rose, qui a l'air d'une guimauve avec un toupette, là, qui a appelé Love is Love. Le bout drôle, c'est que cette église-là, oui, est connue pour être une organisation très haineuse et très intolérante. Fait que de mettre ça, c'est quand même, tu sais, bon. Ce qui est arrivé après, on sait pas ce qui s'est passé avec le Clefairy, là, mais l'église a répliqué sur Twitter en annonçant que tout, réel ou virtuel, permet le péché de l'orgueil en Amérique. C'est un signe de la fin. Sign of Doom, en anglais. Doom en majuscule, puis tout. Hashtag Pokémon Go. Hein, le tout avec un lien vers une image de Jigglypuff qui dit Pokémon Go et ne pêche plus, tu sais. J'oublie le nom, je l'ai traduit.
Pokémon va
et ne pêche plus. Ouais, c'est ça. Puis le Jigglypuff, il y a un pamphlet dans les mains qui dit « Repent ou péris » avec la citation de la Bible en bas. Là.
Sacrifice.
Puis une citation sur Twitter qui dit aussi « Nous avons recruté Jigglypuff pour chanter des nouvelles paroles au sodomite Clefairy. »
Et voilà.
Puis aujourd'hui, le clergé égyptien, ou je sais pas comment ça s'appelle, en Égypte, on statuait que c'était contre le Coran de jouer à Pokémon Go.
Sacrifice.
C'est clair.
Il donne des raisons au monde de jouer.
T'sais. C'est sûr. Je reviens à mon église baptiste, là, parce qu'ils ne sont pas arrêtés là. Oh non, monsieur! Ils ont posté le lendemain, je pense, un autre tweet où ça dit que Pikachu veut avertir ses voisins que vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Le tout accompagné d'une vidéo où Pikachu porte une pancarte « Dieu haït les homosexuels » dans des mots beaucoup moins corrects.
Voilà.
Et l'audio suivant, là, c'était un Vine. Bon, faut que je prenne 15 secondes pour être certain qu'on comprenne bien que si j'en parle, c'est loin d'être parce que je suis d'accord, mais beaucoup plus parce que je trouve ça tellement ridicule.
Je trouve ça magnifique qu'il l'ait chanté. C'est comme, Chris, que vous êtes imbécile.
Histoire amusante aussi. Je me demandais si tu allais en parler dans tes nouvelles, ton actualité. Sur Twitter, la compte de YouPorn a décerné un badge à Pokémon Go pour avoir brisé l'Internet et avoir dépassé dans les recherches Google le mot « porn ». Cette semaine.
Wow!
Ouais. Pokémon Go a dépassé dans les recherches Google le mot porn.
Il y a de l'espoir pour l'humanité.
Ou pas.
Ouais. Ou sinon, tout le monde est rendu avec le site de porn dans leur favori, donc ils n'ont plus besoin de le chercher.
Quand même. C'est assez rare qu'un mot-clé dépasse porn dans les recherches Google. Je finis ça sur une histoire qui a quand même fait couler pas mal d'encre aussi. Question, mettons, un peu d'information. Cette fois-là, c'est par rapport aux accès que le jeu a sur votre téléphone et votre compte. Ah, ouais. Il y a des gens qui ont rapporté que le jeu demandait d'avoir tous les accès au compte Google des participants, allant même jusqu'à pouvoir écrire des courriels effacés, blablabla. Donc, c'est pas que c'est faux, mais ça se faisait que sur iOS, Niantic a répondu. Là, il a à peu près répondu à rien depuis que le jeu est sorti, mais ça, ils ont répondu pour dire que c'était un bug de l'application iOS qui demandait trop d'accès, mais qui n'en avait pas besoin. Dans le fond, qui corrigerait le plus rapidement possible. Puis je pense que c'est déjà fait au moment où on vous parle là, parce que l'application se sert réellement que du courriel pour l'authentification et c'est tout, mais qui demandait genre accès total. Là.
Au compte Google.
Ouais. Au compte Google. Donc, hein, si quelqu'un y a vu passer la première partie, mais pas l'update, ben je pense que ça vaut la peine d'en parler. Donc, je finis avec une petite liste de trucs en vrac là, pour les entraîneurs en devenir. Ça vient pas de moi directement, là, je prends pas le mérite, c'est majoritairement de Reddit. Y a beaucoup de ça qui vient d'essais-erreurs, fait qu'il y a peut-être des trucs qui sont déjà démontrés comme être faux, puis je m'en excuse, mais il y a quand même des trucs qui pourraient servir quand même. quand vous voulez attraper un Pokémon, il y a un anneau coloré qui apparaît autour de lui, qui peut être jaune, rouge ou vert. Ça indique la difficulté de l'attraper. Vert, c'est facile, jaune, moyen, rouge, difficile. Là. Donc, si c'est un Pokémon que vous voulez, c'est rouge, puis vous voulez l'attraper, ben, donnez-lui une petite framboise si vous en avez. Ça l'aide à être attrapé. Puis utilisez une de vos meilleures Pokéballs. Dépendant de votre niveau, vous pouvez avoir accès au Great Ball ou au Ultra Ball. Là. Donc voilà, parlant de la framboise, elle marche que pour un tir réussi. Fait que donne une framboise, tire une Pokéball, il ressort. Faut t'en donner une autre si tu veux que ça fasse encore effet.
C'est baveux.
C'est baveux. Mais c'est cute de voir le Pokémon manger les framboises, il est content, ça fait un petit cœur. quand vous visitez un Pokéstop, mettons que vous voulez faire ça rapidement, là, vous ridez shotgun en dual wielding des téléphones. Ah oui, ça se fait. S'il vous plaît, ne jouez pas en conduisant, mais donnez ça à votre passager puis il va y aller à deux mains. Vous voulez pogner un Pokéstop qui passe rapidement.
Hashtag passager à deux mains.
Oui, c'est ça. quand vous pognez un Pokéstop, il y a des petits items qui apparaissent dans des bulles. Vous n'êtes pas obligé de péter les petites bulles pour les obtenir. Si tu fermes le Pokéstop, ça les ramasse toutes d'un coup.
Ah, merci.
Pour vrai? Oui. Fait que tu peux juste
faire le X, tu swipe, tu fais le X, puis c'est parti.
C'est noté, merci.
C'est sûr que c'est le fun de péter des petites bulles virtuelles, mais ça peut être fini. Ça peut finir par être long. On peut ramasser des œufs, là, vous le savez probablement, qui contiennent des Pokémon, qui demandent de marcher 2, 5 ou 10 km pour les faire éclore. Et oui, un marché, il y a une limite de vitesse. En auto, ça ne fonctionne pas. Même à vélo, si on va trop vite, ça ne fonctionne pas. Je descendais une côte, moi, puis ça... Non. Donc, c'est pas clair exactement la vitesse. Il n'y a pas personne qui a réussi à faire d'études scientifiques assez poussées pour le trouver, mais ça jase autour de 20-25 km/h de limite. Là. Donc... voilà, fait que pour éclore les œufs, pour les faire éclore, oui, les œufs, il faut les mettre dans un incubateur. On en a un qui fonctionne toujours, puis on peut en ramasser comme item qui fonctionne 3 fois. Question d'efficacité mathématique, mettez dans l'incubateur qui fonctionne pas beaucoup, ceux qui sont plus longs à éclore. Mm-hmm. On va se mettre 3 œufs de 10 km dans ton incubateur qui marche 3 fois, il va marcher 30 km. Si tu mets 3 œufs de 2 km, il va marcher 6 km. Juste mathématique un peu.
T'es pas en vacances, toi?
Malheureusement, pas tout le temps. Attrapez tous les Pokémon que vous croisez. Parce que, en les attrapant, ça vous donne des bonbons. 3 bonbons. Entre autres, les Pokémon donnent des bonbons. Il y a de quoi de weird là-dedans.
Puis en plus, évidemment, t'es graines les Pokémon.
Oui, c'est ça.
T'en fais de la poudre.
Tu peux les transférer après ça, puis ça t'en donne un autre de plus. Dans le fond, ces bonbons-là vont servir à évoluer les Pokémon ou à bosser la puissance. Justement, faire évoluer un Pokémon donne un gros bonus d'XP, quelque chose comme 500 d'XP pour c'est une 500. Évolution. Ce qui est très important parce que l'XP, c'est ce qui va gérer la force des Pokémon que vous allez rencontrer, la variété de Pokémon que vous allez rencontrer. Donc, l'XP est vraiment, vraiment important parce que plus votre level à vous comme entraîneur est élevé, plus vous allez avoir de plaisir. Meilleur truc pour monter de level rapidement, je l'ai fait une fois puis je suis passé de level 10 à 13 d'un coup. Vous ramassez un paquet de petits Pokémon avec des levels qui sont faciles à évoluer, le genre des Pidgey, des Caterpie, des Weedle qui prennent 12 bonbons. Vous en ramassez un shitload, là, ou un metric shitload, même, parce qu'on est en système métrique. Puis dans le fond, vous prenez un Lucky Egg si vous en avez un, qui vous donne un bonus qui double XP. Vous installez une place, soit qu'il y a une lure, ou vous droppez un encens si vous voulez, parce que pogner des Pokémon aussi va donner de l'XP. Attraper un Pokémon, c'est 100, puis si vous l'avez pas, c'est un 500 de plus. Fait que tout ça va être doublé. Puis là, vous vous mettez à attraper les Pokémon qui apparaissent. Puis entre-temps, parce qu'ils n'apparaissent pas constamment, ben vous évoluez vos petits Pokémon poche qui donnent des 1000 d'XP à chaque fois. Puis vous allez voir que l'expérience va aller assez rapidement.
C'est pas stressant, les Lucky Eggs, ils durent une demi-heure. Là.
Ouais, la même durée que les lures puis que l'ensemble. Fait que moi, je m'étais assis chez nous un matin, j'avais rien à faire, puis chez nous, il n'y a rien qui se passe. Là, je suis dans le fond d'un rang. Fait que drop un encens, drop un Lucky Egg, me mets à évoluer des Pokémon. Quelqu'un a calculé là, mathématiquement c'est quoi le maximum qu'on peut avoir avec le temps de l'animation pis tout ça, mais sans ça, là, mettons que c'est assez intense. Là. Donc, c'est un bon truc, ça va rapidement. Je l'ai refait une deuxième fois sans le vouloir en accrochant le Lucky Egg puis en cliquant dessus parce que je regardais pas ce que je faisais. Là, je me dis, oh shit, je viens d'ouvrir un Lucky Egg. Puis là, l'allure où j'étais venait de finir, j'ai décidé de marcher, de pogner des Pokéstops en marchant, puis entre les Pokéstops, d'évoluer mes Pokémon qui traînaient. T'sais. Voilà. Dernier truc pour la track, vous avez sûrement remarqué la liste de Pokémon proches qui est en bas à droite de votre écran. Ça a été un gros mystère pendant un bout de temps, plein de millions d'informations qui se contredisaient, puis tout ça. Là. Le principe de base qui est assez comme clairement établi maintenant, c'est que quand vous marchez, bon, mais de base, il y a le nombre de pattes, si on le comprend. S'il y a 3 pattes, il est plus loin, 2 pattes, 1 patte, puis plus de pattes, vous êtes quasiment par-dessus le Pokémon. Mais quand il est à 3 pattes, il y a une manière quand même de savoir si vous vous rapprochez ou vous éloignez du Pokémon. Plus il est en haut à gauche de votre liste, plus il est proche de vous, plus il est en bas à droite, plus il est loin. Fait que si vous marchez et il s'éloigne vers le bas, ben là, vous vous éloignez, fait que vous revirez de bord. Puis là, s'il se rapproche, ben, il va se rapprocher de vous.
Sauf que ce que représente le 3 pattes, par contre, est encore complètement inconnu.
On le sait
au
pas.
Moment de l'enregistrement.
Il y a des, mais... belles, des ouais. belles images sur Reddit. Une patte, deux pattes, trois pattes, c'est assez connu. Là. Deux pattes, je pense. Une patte, deux pattes, mettons. Là. Deux pattes, je pense que c'est quelque chose comme en dedans de 100 mètres qui est le Pokémon. Fait que si tu avances, tu tombes à trois pattes, ben, tu reviens de bord. Si tu retournes sur la même rue, mettons, puis retombes à trois pattes encore, ben, reviens à mi-chemin. Fait un 90 degrés dans un sens. T'sais. Il y a moyen assez facilement. Mais trois pattes.
Il faut trianguler les pattes.
Trianguler les pattes. Mais à trois pattes, il y a des beaux dessins sur Reddit qui étaient comme une patte, deux pattes, c'est des beaux cercles. Trois pattes qui est comme une forme weird.
Oh, ouais.
On ne sait pas.
La, la range a l'air vraiment énorme à trois pattes.
T'sais, c'est-tu genre la range de ta tour? On ne sait pas. Mm-hmm. Mais bon, quand même, quand il se rapproche de toi, ben, il se rapproche de toi sur la liste. Ça peut aider quand même. Puis, ben voilà. Si vous voyez, vous croisez des gens en cours de route, puis vous êtes en train de traquer un Pokémon rare, là, je parle pas d'un Weedle, mais quelque chose de plus cool, ben soyez pas des enfoirés, là. Collez la voix haute si vous le trouvez, parce que c'est pas parce que vous le prenez ou quelqu'un d'autre le prend qu'il va disparaître. Là. S'il y a un Pokémon sur la map, il est là pour tous les joueurs qui sont sur la map, probablement qu'ils y ont accès. Là. C'est sûr que si t'es level 22 puis tu trouves un Charizard, ça se peut que le level 2 le voit pas. Mais si c'est un Pokémon qui est... Je pense que tous les gens qui peuvent le voir vont le voir. Donc, c'est pas parce que quelqu'un d'autre le pogne que tu pourras pas le pogner. Il est là pour tout le monde. Soyez pas des enfoirés.
Mais moi, ma question, ce que j'ai pas compris, c'est si tu prends ce Charizard. Ce Charizard.
Charizard.
C'est Charizard.
C'est Charizard.
Charizard.
Ouais.
Charizard.
C'est trop force.
Non, mais Chris, c'est quoi ta question?
Je connais Pokémon. Je cherche du monde, non?
Jeff.
Non, mais. Si tu le ramasses, il va-tu revenir là plus tard?
C'est comme pas encore clair.
Ils ont l'air
probablement,
de bouger.
Probablement. Ils ont l'air de bouger. Ils ont l'air d'avoir une certaine quand même constance parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont tourné dans leur parc pour former un type en particulier. Mm-hmm. C'est comme encore dans les inconnus pour l'instant. Il y a comme... Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même... T'sais, c'est vrai là, que quand je marche sur le bord de la rivière à l'Assomption, il y a des Pokémon d'eau.
Oh oui, mais ça a été confirmé par contre que le gaz, les parcs, la rue... Le bord de l'eau puis les endroits élevés vont engendrer des types de Pokémon différents.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est à considérer, mais en plus de ça, il y a des spawns qui
sont. Sauf les Magikarp,
mais je parle des forts. Là. Tu sais, Charizard, tu le veux, mais est-ce que tu es juste allé là pour aller t'en chercher 22
faut parce que t'es
là? Ouais, mais si t'as le niveau, il va te revenir là tout le temps.
Il va tout le temps de même. Tu sais, il va probablement qu'il y a une liste de Pokémon possibles à spawner à ce spot-là. Puis ça veut pas dire qu'il va revenir aux 3 minutes un Pokémon à ce spot-là non plus, tu sais. Comme moi, pour loin de chez nous, là, le seul spot que je peux faire à pied, c'est à ma boîte à lettres. Ça tombe bien, des fois, il faut aller chercher le courrier. Fait que là, je regarde, ah, pas de Pokémon rare, on va y aller plus tard. Ah, il y a quelque chose d'elfun, on va y aller. T'sais. Mais à ma boîte à courrier, il n'y a pas tout le temps un Pokémon qui spawn non-stop. Là. De temps en temps, il y en a. Ah, il y en a un, il y en a pas. Il y a quelque chose d'elfun, il y a un Clefairy, ah, il n'y a rien pantoute. Ah, je vais chercher, ah, il y a un Snorlax, bon, ma boîte à lettres. Oui, fait vécu, il y avait un Snorlax qui m'empêchait d'aller chercher mon courrier.
Mais
la Pokéfloute,
on va découvrir ça bien assez vite.
Ben, probablement que c'est ce genre partout. De truc qui va comme. Tu sais, ces genres d'informations qui vont finir par être connues. Il y a une application qui existe qui s'appelle Pokémon Go Chat ou Go Chat, quelque chose comme ça, que le gars est en train de se mettre dans la rue.
À développer.
À développer parce que les serveurs ont besoin d'augmenter non-stop, là, mais ils continuent de le développer quand même. Puis c'est le genre de truc où est-ce que tu peux parler, puis il y a de la géolocalisation. Je ne l'ai pas essayé, là, mais je sais que c'est quand même extrêmement populaire, puis ça aide les gens justement à dire ah, il y a telle place, j'ai vu tel type de Pokémon, puis. T'sais, probablement qu'avec ça, puis un peu de temps, on va savoir si, ben oui, à tel spot, il y a tel Pokémon qui spawn ou pas. C'est, voilà. Donc, je termine en vous demandant, s'il vous plaît, d'être attentif puis d'être prudent quand vous jouez. Même si vous avez la face dans votre téléphone, relevez-la. T'sais, traversez pas la rue en regardant pas. Puis moi, j'ai pas le goût d'avoir plein. T'sais, j'ai pas le goût que les médias soient remplis d'histoires où est-ce que le monde meurt en jouant à Pokémon Go. Je veux que ça reste une belle expérience pour tout le monde, puis pas que je me fasse traiter de cave parce que je joue à ça. Parce que ça se passe déjà, mais en plus, parce qu'il y a du monde qui se pète la gueule.
Puis en plus, c'est évident que vous êtes du monde qu'on veut pas qu'il arrive quelque chose, parce que vous écoutez le podcast.
Ben
vous êtes
voilà,
clairement c'est des gens
pour
supérieurs.
Nous.
S'il vous plaît.
Puis surtout, quand vous allez chasser vos Pokémon, faites attention. Prepare for trouble. Make it double. To protect the world from devastation. To unite all peoples within our nation. To denounce the evils of truth and love. To extend our reach to the stars above. Jesse! James! Team Rocket, blast off at the speed of light! Surrender now or prepare to fight! Me out, that's right! Je suis clairement trop vieux pour connaître ça.
Je pensais pas que je m'en rappelais autant.
Moi aussi, je suis surpris. Good show! Je prends quelques petites minutes pour vous expliquer les raisons pour lesquelles, à chaque fin d'épisode, on vous quête les petites étoiles sur iTunes. Hein, on n'est pas juste là pour faire... grossir nos flatter nos égos ou grossir nos épines.
Nos épines, merci, j'espérais.
Ou nos caterpines. Les deux.
Nos caterpines.
Nos caterpines. Chaque fois qu'il y a caterpines. Sur iTunes, revenons à...
S'il vous plaît.
J'allais chercher un Pokémon que c'est un mouton, mais je ne connais pas, c'est une autre génération. Sur iTunes, plus un podcast a de review ou de rating positif, plus il va être classé haut dans les rangs, dans les listes. Donc, ça donne plus de visibilité à ce podcast-là. Ça permet à d'autres personnes de le découvrir, puis ce que vous devriez apprécier, parce que vous prenez la peine de nous écouter dire des niaiseries à chaque deux semaines. Bref, ça nous aide à nous trouver de nouveaux adeptes à partir de notre culte, je veux dire... avoir plus de monde qui nous écoute.
Hashtag Westboro Baptist Church.
Hashtag Love is Love. Donc, si vous aimez le podcast, prenez quelques secondes, même si c'est pas là que vous le pognez, le podcast, pour aller cliquer les petites étoiles, laisser un review. Puis merci aux personnes qui ont cliqué une petite étoile cette semaine. Il y a des nouvelles petites étoiles, mais pas de review. Donc, même si iTunes vous fait rager, comme moi et comme Mathieu, entre autres, ben prenez la peine d'aller faire un petit tour quand même, parce que nous, on prend la peine d'aller voir dessus, même si c'est la seule raison pour laquelle j'ai iTunes sur mon ordi. Ça pour dire que,
oui.
Pour retrouver nos derniers épisodes, c'est sur ledivanquest.com. Pour du feedback, du hate mail au twitter.com/divanquest. Sur Facebook au facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts québécois sur le www.rzweb.com et dans la playlist de Pod Québec au podquébec.com.
Juste en terminant, Danny, est-ce que ton concours du dernier épisode a fonctionné?
Je sais pas, l'adresse n'existait pas. Je pense que Caramel n'existe plus.
Bon, ben, à dans deux semaines.
On se voit dans deux semaines.